Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue, vous avez bien raison d'être sur RMC, tranquillement, à l'ombre, le plus possible, avec les chaleurs qu'il règne actuellement. Nous, nous sommes en studio, la clim est là et on va pouvoir vous parler de toute l'actualité sportive de ce dimanche. Et elle est quand même importante, évidemment, même s'il n'y a pas beaucoup de direct cet après-midi. Yoann Huger va m'accompagner durant cette première heure. Il est bronzé, il est magnifique, une gravure de mode. Ça va, mon Yoann ?
Salut Christophe, salut à tous.
On a assisté aux demi-finales du top 14 ce week-end. La qualification large, très très large même, du Stade Toulousain. Celle plus difficile de Montpellier. Voilà une belle affiche qui nous attend. Ce sera samedi prochain, on va en parler dans un instant.
Une finale d'Occitanie.
Ah ben oui, voilà, les clubs parisiens, ça a la trapinette. Hein.
Ça, c'était pas... ça a été compliqué pour les clubs parisiens.
Ouais, ça a été compliqué, surtout pour le Racing, mais le Stade français non plus n'a pas pu faire la différence face à Montpellier. Donc finale Occitane, samedi prochain à 21h05 au Stade de France. On en parle dans un instant. On va évoquer également la liste pour la tournée, parce que une fois que le championnat sera terminé, eh bien on va passer à d'autres réjouissances. La tournée, enfin c'est plus qu'une tournée puisque c'est désormais une compétition.
La National Cup.
Et
les équipes du Nord contre les équipes du Sud. Là-bas, en hémisphère sud l'été, et hémisphère nord pour la tournée de novembre. Donc, et ensuite, on fait un classement.
Et on va commencer par le plus facile, en fait. On va jouer la Nouvelle-Zélande chez elle. Donc, on verra.
Il faut les cueillir à froid.
Donc, s'ils s'y attendent pas, on peut les cueillir à froid. En tout cas, ça fera une sacrée différence de température parce que la Nouvelle-Zélande est en train d'entrer dans l'hiver, alors que nous sommes au plein cœur de l'été. On évoquera également tout à l'heure, à partir de 16h, avec Jérôme Pinault, le cyclisme. Pogacar dispute la dernière étape du Tour de Suisse. Il a déjà remporté le Tour de Suisse, mais va-t-il remporter une troisième étape dans ce Tour? Il est le grandissime favori du Tour de France. On prendra des nouvelles de Paul Sexas et puis on s'entretiendra également avec Dorian Godon, le champion de France en titre, qui va tenter de défendre son maillot bleu, blanc, rouge. Ce sera la semaine prochaine dans l'Isère à l'occasion des championnats de France. Et puis évidemment le foot à partir de 17h. On s'intéressera au match entre la France et l'Irak qui aura lieu demain. Deuxième match des Bleus dans cette compétition. Jean-Pierre Papin sera à mes côtés pour évoquer les petits changements a priori prévus par Didier Deschamps. On évoquera également l'Allemagne qui s'est qualifiée pour les 16e de finale. L'Allemagne, tiens, qu'on pourrait retrouver dès les 8e de finale de la Coupe du Monde. Ça, ce serait un sacré choc entre l'équipe de France et la National Mannschaft. Paul Breitner viendra tout nous dire. Et puis, on écoutera le coup de cœur de JPP qui vibre aujourd'hui pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont été en démonstration hier. Enfin, on s'intéressera à l'équipe d'Espagne, là aussi grand favori de cette Coupe du Monde, qui dispute son deuxième match face à l'Arabie Saoudite. Ce sera cet après-midi à 18h. Les Espagnols qui n'ont pas vraiment rayonné lors de leur premier match, où ils ont été tenu en échec. Voilà le programme jusqu'à 18h. C'est parti pour l'Intégral Sport. Julien Landry nous rejoint, un finaliste heureux, évidemment. Oh, il a l'habitude maintenant.
Non, on s'habitue jamais à ça.
Ouais, enfin, Yoann Huger, c'est habitué.
Oui, s'habitue, mais à Toulouse, ils sont habitués. Mais Montpellier, pas assez. Même si Montpellier est le dernier champion de France avant l'hégémonie toulousaine, n'oublions pas.
Exactement. Ouais, et ensuite, et surtout la saison qu'ils ont vécue l'année dernière. Donc là, franchement, oui, c'est chapeau bas au staff montpelliérain qui a fait un boulot incroyable, sachant qu'on, si on se remémore un peu la saison, le début de saison un peu compliqué, ils ont redressé la barre sur la deuxième partie et c'est logique de les retrouver en finale.
Ouais, Montpellier et Toulouse qui ont terminé premier et deuxième de la saison régulière et qui se retrouvent donc en finale. L'importance de cette qualification directe pour les demi sans passer par le match de barrage était sans doute importante, même si les deux équipes ont vraiment dominé la saison jusqu'à présent. On va maintenant se remettre dans l'ambiance. C'était hier soir au Stade Vélodrome avec ce match entre Montpellier, le Stade français, et la victoire du MHR.
C'est bien joué, est-ce que va aller l'Australien? Ouais, magnifique essai de la part des Montpellierains. Hein, magnifique initiative de la part de Domingo Miotti, Denis, oui, avec cette stratégie très claire. Johan Tanga qui est passé. Et la réponse immédiate de la part du Stade français. Avec Kerr Barlow sur un magnifique lancement de la part du Stade français. Et là, le coup pied dans le dos, bien joué pour Dakouvaka qui va aller marquer.
Oui, essai.
Le deuxième essai. du Stade français, les Parisiens qui ont attaqué deux fois. Montpellier va aller disputer la quatrième finale de son histoire au Stade de France. 15 ans après la première, le grand Stade toulousain attend Montpellier la semaine prochaine pour sacrer le champion de France de cette saison.
Voilà donc la victoire de Montpellier dépend du Stade français. Ça a été un match comme on s'y attendait, hein, Johan, âpre, avec une opposition non pas de style mais une opposition entre deux packs. On se demandait qui allait prendre le dessus sur l'autre, et finalement on s'est rendu compte que Montpellier était encore un cran au-dessus, notamment au niveau du pack. La mêlée parisienne qui a explosé comme du pop-corn en deuxième mi-temps notamment,
hein. Ouais, exactement, hein. On s'attendait pas à ce que la mêlée parisienne soit aussi en souffrance, alors que ça a été leur point fort durant toute cette saison. Et Montpellier, il y a un tournant quand même dans ce match, cet essai refusé au Stade français qui peut les relancer, qui peut les faire recoller au score et revenir à égalité. Et ça, pour moi, c'est le tournant du match, avec un retour extraordinaire de Taofi Funua. Donc voilà, c'est logique de retrouver Montpellier là, mais on s'attendait pas à... Je pense que les Parisiens vont avoir quelques regrets s'ils revoient le match, parce qu'on n'a pas senti une équipe parisienne jouer à pleine puissance.
Est-ce que vous pensez, on l'a évoqué hier avec Julien, ce match de barrage, même si le Stade français avait quand même réussi à gérer un peu ce match de barrage face à La Rochelle la semaine dernière, mais malgré tout, ça reste dans les pattes.
Ça reste pas forcément dans les pattes. Il y a aussi Montpellier qui a une aventure en Coupe d'Europe. Aussi, hein. Et une aventure en Coupe d'Europe. Oui. Ils vont jusqu'en finale, alors que les Parisiens ont pu se reposer, ont pu se régénérer. Les Montpellierains sont allés chercher la deuxième place à Lyon également. Donc, pour moi, on ne peut pas mettre ça sur la fraîcheur des Montpelliérains de ne pas avoir joué le week-end précédent, parce qu'ils ont une campagne européenne qui est aussi longue et éprouvante avec des déplacements. C'est juste qu'ils ont été meilleurs au moment voulu, l'instant T, et les Parisiens n'ont pas su réagir, n'ont pas su contrer cette défense montpelliéraine qui ferme les extérieurs, qui est difficile à manœuvrer. Voilà, félicitations à Montpellier et à tout son staff.
Julien, Toulouse, Montpellier en finale, ce sont les deux meilleures équipes de la saison, il n'y a aucun doute là-dessus.
Oui, sur en tout cas ce qu'a montré les Montpellierains, n'oublions pas, hein, ils ont seulement 3 défaites depuis, depuis le début du mois de décembre, c'est-à-dire depuis cette
22
défaite.
22 victoires sur 25 matchs, c'est ça,
ouais,
je crois. Hein.
Depuis cette défaite contre Clermont le 1er novembre, il y a ensuite eu la trêve internationale, et les Montpellierains, depuis le 22 novembre, ont remporté 23 des 26 derniers matchs, avec une défaite bonifiée 23. À Pau, une défaite bonifiée à Toulon, et ce match à Toulouse qu'ils avaient perdu, mais en faisant beaucoup tourné. Donc les Montpellierains sont aujourd'hui clairement la deuxième meilleure équipe de notre championnat. Johan l'a dit, ils ont été gagnés à Bordeaux, ils ont été gagnés à Lyon, ils ont été gagnés à Castres, ils ont gagné à Clermont, ils ont gagné à La Rochelle. Ils ont fait une saison pleine, et n'oublions pas que sans ce début de saison, ils auraient peut-être pu même titiller les Toulousains plus longtemps. Et pour parler de la fraîcheur physique des Montpellierains, ils sont sur le pont depuis...
Aussi, hein.
Oui, mais les Montpellierains sont sur le pont depuis le 4 avril. Ils n'ont pas eu de week-end de pause depuis le 4 avril, parce qu'ils ont enchaîné le championnat, la challenge. Alors Johan Codulo a fait tourner son effectif, a managé ses hommes, mais les Montpellierains physiquement aussi, c'est là où ils sont impressionnants, c'est que hier ils ont étouffé le Stade français, ils les ont fait cuire dans une petite cocotte minute et ils ont fini par les faire craquer.
La cocotte minute de Marseille et de Montpellier, donc pour écraser cette équipe parisienne, non pas écraser, mais en tous les cas dominer. Même si Montpellier aurait pu quand même
aurait pu être plus lourd. Hein.
Ouais, c'est ça. Le score aurait pu être plus lourd. Il y a quand même eu pas mal d'occasions manquées. Le genre de choses qu'il ne faudra pas reproduire la semaine prochaine face aux monstres toulousains.
Hein. Ouais, pour avoir discuté avec beaucoup des membres du staff après match, ils regrettaient vraiment ça, de pas avoir réussi à tuer ce match-là sur les temps forts. On se rappelle cette touche non captée par les Ninouchi en première période, ces grosses avancées, ces situations d'essai en deuxième période non concrétisées, parce que malgré tout, s'ils avaient fini par faire basculer le score, ils auraient peut-être pu aussi un peu gérer la fraîcheur et faire souffler des garçons, et jusqu'au bout, ça a tapé fort. Donc voilà, c'est le gros regret, peut-être même le seul regret de Johan Codulo d'hier soir, c'est de pas avoir concrétisé les temps forts sur ce match-là. Et tu l'as dit, contre Toulouse, il y en aura probablement moins, et il faudra mettre les actions au fond quand elles vont se présenter.
Après, c'est un peu leur tendon d'Achille, les Montpellierains, en touche, d'être un peu frileux, pas frileux, mais ils ont des petits soucis avec le talonneur. On peut pas tout remettre sur les talonneurs.
Mais
le problème de lancer.
Le verrat, il est quand même énorme.
Oui, heureusement qu'ils ont Vérac, parce qu'il arrive à trouver des situations de saut qui facilitent les lanceurs, mais au vu de la saison, c'est quand même un peu leur tendance. On l'a vu avec Pau sur la première mi-temps, ils n'ont aucun ballon en touche et ils s'en sortent miraculeusement avec un point. Ils gagnent d'un point, je pense, contre Pau et ça les fait basculer sur la deuxième place. Mmh. Donc, il va falloir qu'ils règlent sur cette dernière semaine des situations de saut pour faciliter, on va dire, leur talonneur et leur lancer.
Ouais. On doit avoir une mauvaise impression, Yohan, parce qu'ils avaient gagné 26-18 contre Pau et Montpellier aujourd'hui est le deuxième meilleur alignement de notre top 14 en termes de ballons conservés, tu vois. Et le deuxième Pau, meilleur contre. Contre Pau, ils avaient eu des difficultés. Ah, voilà. Très clairement, en début de match. Ça avait été une stratégie pas l'autre. D'ailleurs, Antoine Batut l'avait dit. Mais Antoine Batut m'avait expliqué que, tu sais, c'est les spécialistes là. Ouais, Antoine Batut m'avait dit, on avait décidé de pas faire la guerre en l'air, mais on fait la guerre en bas. Quand les palois retombaient. Et que parfois, Antoine Batut décide de pas aller contrer les ballons en l'air pour coffrer sur les groupes pénétrants derrière. Donc c'est parfois de la stratégie, mais Montpellier a plutôt un bon alignement et comme l'a dit Christophe avec un Florian Vérac.
Oui, bien sûr, ça. Florian Vérac,
les bras, c'est
il a piqué un nombre de ballons aux Parisiens hier, c'était tout simplement impressionnant. Alors les Montpellierens ont-ils fait la fête hier soir, Julien?
Alors déjà ils sont rentrés tard. Ah, ils sont rentrés à 4h30 à Montpellier parce que tu sais qu'il y a les contrôles antidopage après match et que Mo Awas a eu du mal à répondre au protocole, à faire pipi. Notamment, ouais, il a eu beaucoup de mal à faire pipi. Et donc, le bus est resté longtemps dans les couloirs du vélodrome. Ils sont arrivés à 4h30 du matin. Et pour la petite anecdote, devant la longueur du contrôle, Didier Besse, l'entraîneur de la Mali, a perdu un peu patience. Et il a été tapé très fort à la porte du contrôle antidopage en disant, oh, les Toulousains, ils dorment là. Donc, laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Bon, ça n'a pas permis à Momo de faire pipi plus vite, mais ils ont quand même dû rentrer. Ils sont rentrés à 4h30. Et l'autre anecdote pour rappeler, effectivement, cette finale de 2011, la première des Montpellierains. Johan Codulo me racontait hier soir que en 2011, donc les Montpellierains battent le Racing en demi-finale, montent dans le bus. Fabien Galthié arrête le bus, regroupe tous les joueurs au fond du bus et leur dit « Si vous voulez gagner la finale, les garçons, il faut pas faire la fête ce soir ». Johan Codulo, à l'époque, n'avait pas écouté Fabien Galthié. Ils avaient fait la fête jusqu'à 6h du matin et avaient perdu la finale juste derrière. Donc Johan Codulo a dit à ses joueurs hier soir « C'est d'entre vos mains, les gars. Si vous voulez être champion,
c'est ce que je dis, mais pas ce que j'ai fait.
Faut pas faire la fête, faut faire de la récup. Et ce que je sais, c'est que la récup a été au programme de tous les joueurs et qu'ils ont été très raisonnables hier soir.
Ils sont sérieux, ces Montpellierens. Hein,
quand tu rentres déjà à 4h du matin, c'est compliqué. Déjà, le match, le protocole qui redescend la pression, l'adrénaline. Je pense que t'as qu'une envie à 4h du matin, c'est de rentrer. Donc, tu peux boire 2-3 bières dans le bus. En rentrant, ça fait partie du protocole, on va dire, de récupération.
Bah oui, ça aide pour le contrôle antidopage.
Et de cohésion. Mais en tout cas, sortir et rester encore debout et fêter un truc qui n'a rien à fêter. On n'a pas à fêter d'être en finale. Donc, je pense que les joueurs n'avaient pas foncièrement envie de sortir.
Tiens, on va écouter Lenny Nouchi, le capitaine Montpellierin, justement, nous parler du calme après la tempête et avant l'autre tempête de samedi prochain.
On était content quand le match a été fini. Comme on se l'a dit en début de saison, c'est une étape. Bien sûr que c'est une fierté de pouvoir remporter cette demi-finale. C'est bien pour le club qu'on a chié depuis l'après-tier. Donc c'est bien de retrouver le Stade de France depuis 2022. Maintenant, je pense que tous les joueurs, on est conscients que c'est une étape dans le parcours qu'on a voulu se créer depuis le début de saison. On a réussi à gagner une Challenge Cup et pourquoi pas, on nous donne le droit de rêver pour un deuxième titre cette année. C'est vite rentré dans la tête des joueurs et c'est pour ça qu'on est, bien sûr, on est très content. Mais voilà, c'est une étape de plus dans notre parcours et à nous d'être focus la semaine prochaine pour l'affronter Toulouse.
Alors, il y a déjà eu des doublés Champions Cup top 14, Julien, notamment du côté de Toulouse, qui est, je crois, le seul club français à y être parvenu. Toulon, peut-être aussi.
Toulon l'a fait aussi.
Toulon et Toulouse. Toulon. En revanche, des doublés Challenge Cup top 14, je ne crois pas que ce soit déjà arrivé.
Jamais. Voilà. Mais parce qu'en général, les équipes qui gagnent la Challenge Cup, c'est pas forcément les équipes qui performent en championnat. Bah, déjà, Toulouse n'a jamais remporté la Challenge Cup, par exemple, tu vois. Quelle honte, le Stade Toulousain.
Et on y a participé.
Oui. Non, mais voilà, en général, c'est vrai que l'équipe qui gagne le challenge, c'est des équipes qui n'ont pas été qualifiées dans les 6 les années précédentes, et c'est pas d'habitude des équipes qui vont jusqu'au bout dans le championnat. On se rappelle que Lyon a fait la finale la saison dernière sans se qualifier. Et c'est vrai que c'est quelque chose de surprenant que Montpellier peut gagner et le challenge et la top 14.
Tiens, je crois. Alors, toi, tu l'as fait le doublé Coupe d'Europe 2021. Et je crois que notre invité également a dû faire un doublé avec Toulon. Guillaume Guirado est avec nous. Non, salut.
Bonjour,
Guillaume.
Non, salut.
Il a pas fait. Il est arrivé après.
T'es arrivé après toi.
T'es arrivé après la guerre, lui.
Non, j'étais la Coupe d'Europe quand même. Bon, ce qui me manquait, donc j'ai réussi à tout gagner aussi. Johan, il te manque un challenge européen, désolé.
Johan et Guillaume qui se connaissent évidemment très bien, ils ont été en équipe de France ensemble. Ils ont, d'ailleurs, je crois que vous avez porté le maillot bleu pour la dernière fois ensemble. Hein. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Johan, c'était quart de finale de la Coupe du Monde 2019.
Galop. Ouais. Bon.
C'est ça.
Captain Guirado,
en fer de lance et voilà, tout le monde connaît le scénario, donc
c'était
dommageable, mais voilà, c'est comme ça le sport.
Ouais. Guillaume, qualification donc de Montpellier. La dernière fois que tu as porté un maillot de rugbyman professionnel, c'était justement une finale. C'était la dernière finale de Montpellier et c'était le bouclier de Brennus. J'imagine que 4 ans plus tard, ça doit te faire un plaisir fou de voir à nouveau le MHR en finale du championnat.
Oui, bien sûr. Ben pour moi, en plus, c'est une date référence parce que quand on me demande quand est-ce que j'ai arrêté, forcément, ben je rappelle cette date-là. Donc c'est maintenant il y a 4 ans, donc chaque année je le compte et je fais référence à ce titre parce que j'ai fini par la grande porte et par rapport à un titre avec Montpellier, donc c'était quand même assez exceptionnel. Donc c'était hier, mais c'était il y a 4 ans quand même aussi, donc ça passe très très vite. Entre temps, le club donc du MHR a connu pas mal de périodes un petit peu de turbulence, mais après je suis content quand même parce que j'ai suivi, j'ai eu la chance de pouvoir assister à la finale aussi à Bilbao de Challenge Cup, donc je suis content pour le groupe parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont participé au titre en 2021 et en 2022, donc on va dire que tous les joueurs qui ont pu se greffer se sont entre guillemets adaptés au niveau de l'exigence que mérite ce club.
Une finale que.
C'était 8 exactement hier soir, Guillaume, à avoir été champion de France avec toi.
Combien tu dis
8 hier soir. 8. Ils étaient 8 hier soir sur la Toulouse de Montpellier-Rennes à avoir été champion avec Guillaume en 2022.
Ouais, ça fait quand même un paquet, un bon noyau. Oui,
l'équipe, donc c'est assez fort quand même. Donc ça montre aussi la continuité du club. Donc c'est bien. Et après, quand même, c'est vrai que ça a été renforcé par de sacrés talents. Et un joueur qui a éclaboussé quand même le match hier soir, c'est quand même l'arrière, Tom Banks, qui était. Entre guillemets, un peu aux oubliettes au championnat japonais, et ils ont eu raison de le sortir parce qu'il a fait quand même une belle prestation hier.
Alors, tu parles de continuité. C'est vrai, quand on pense à continuité, on pense surtout au Stade Toulousain qui, année après année, réussit à se renouveler et à toujours se retrouver en finale. Montpellier, c'est quand même un peu les montagnes russes depuis quelques saisons. Ça va très très haut avec des titres, des finales, et ça peut aller très très bas. Qu'est-ce qui manque encore à ce club pour s'inscrire dans la durée et rester dans la stabilité, à ton avis, Guillaume?
Aussi par rapport au stade, il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de changements, à la recherche un petit peu de certains talents. Je sais qu'avec Philippe aussi, ça s'est fini entre guillemets assez mal après la 8 titres. Donc voilà, un petit peu ce qui fait référence aujourd'hui, c'est sûr que c'est le Stade Toulousain par rapport au fait qu'ils aient déjà un pléthore d'entraîneurs et surtout des joueurs qui sont soit issus de la formation toulousaine ou soit qui ont joué et qui ont porté le maillot. Montpellier a essayé de le faire également. Donc ça c'est une bonne chose. Après ça se met, c'est difficile à mettre en route. Aujourd'hui si le Stade Toulousain, mais là aussi c'est parce qu'ils ont connu des saisons de galère aussi, parce que je me rappelle en 2014, 2015, 2016,
ouais.
Des années un peu moins fastes.
C'était un renouvellement de génération aussi, c'était pour ça avec ça, le départ de Guinoves. Donc il y avait toute une restructuration du club à faire qui n'avait été jamais.
Ça a duré 3 saisons. Ce
à peu près 2017. Ouais, 2016-2019, 3 ans.
Ouais, 3 ans quand même.
C'est long quand même pour remettre tout un club dans l'axe. Par contre, une fois que tout le monde est au même niveau et tout le monde sait ce qu'il doit faire, aujourd'hui, chaque année, ils sont au top niveau, ils jouent toujours les phases finales. Et ça paraît tellement facile alors que c'est surtout un travail qui a été fait en amont. Donc tous les clubs sont un petit peu à la recherche, hein, mais c'est difficile de se perfectionner et d'arriver toujours au meilleur de la performance. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile pour tous les clubs.
Johan, Toulouse est toujours au sommet. Il y a eu justement ces trois années dont tu parlais. A eu des adversaires par période qui sont revenus plusieurs fois. On pense à Clermont, on pense à Toulon, on pense à La Rochelle, on pense à Bordeaux. Est-ce que Montpellier peut être, dans les années à venir, l'adversaire numéro un du Stade Toulousain? Est-ce que tu les vois s'inscrire dans la continuité, dans la durée?
Oui, bien sûr, ils ont quand même, comme le disait Guillaume, des talents purs et durs, de la formation aussi, ça c'est le plus important, et aujourd'hui Montpellier a un staff 100% montpellierien.
Donc, comme à Toulouse quoi, on a copié Toulouse, finalement ce modèle qui marche.
Copier, je sais pas, mais en tout cas, ils ont les valeurs de ce club, de cette région. Ouais. Et on le voit, un gros paquet d'avant, très dominateur sur leur phase de conquête de Ruck, qui ont embêté énormément les Parisiens et toutes les autres équipes durant cette année en championnat. Et surtout une grosse défense. Donc, Guillaume ne va pas me contredire, mais ils se sont toujours appuyés sur un gros paquet d'avant. Montpellier, et ils reproduisent ce schéma-là, ouais, et leurs valeurs.
Ça, c'est l'ADN de ce club de Montpellier, Guillaume. Hein, on va pas. La vie est belle quand même à Montpellier.
Non, mais c'est un triptyque qui doit être respecté par n'importe quelle équipe. Après, il faut souvent appuyer dessus. Mais je vais pas trahir un secret si je vous dis que quand même le Stade Toulousain, sur la demi-finale et sur tous les matchs de la saison, il passe par là. Sauf que il brille un peu plus à les trois quarts, mais il néglige jamais le travail d'avant, et du coup ça va être un sacré combat sur cette finale là parce qu'on sait que les deux équipes vont y avoir un sacré affrontement, hein. Et hier on le savait que le Stade Français aussi passait par là, et ça reste quand même la clé de notre sport, donc il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut toujours penser excusez-moi l'expression, mais à ferrailler et à mener un sacré combat pour après avoir espéré un peu plus d'espace et un peu plus de liberté pour un jeu aéré. Mais si on commence d'entrée à vouloir se faire des passes et ne pas gagner un avantage, je connais peu d'équipes qui arrivent à jouer des ballons, à se jeter des ballons et que ça passe et qu'il n'y a pas besoin de ce côté-là de un facteur qui est tellement important dans notre sport. On fait un combat collectif, donc voilà, je pense que la finale de samedi va être alléchante par rapport à cette phase-là.
On a l'impression que c'est bizarre et paradoxal. On a l'impression que Montpellier a une saison plus linéaire que le Stade Toulousain sur l'ensemble de la saison. On voit les 3-4 dernières semaines avant d'arriver en demi-finale. Le Stade Toulousain, on dit ils sont pas bien, ils perdent des matchs, ils gagnent des matchs de peu à la maison contre Lyon. Ils perdent un peu aussi.
Enfin, ils savent se préparer pour les matchs qui comptent aussi. On l'a bien vu.
Je suis d'accord, mais j'ai l'impression que la saison de Montpellier est un peu plus linéaire que celle du Stade Toulousain, où ils ont connu quelques turbulences.
Après, Johan, oui, mais elle a très très mal commencé. Moi, j'avais assisté au premier match à domicile où ils ont perdu contre Toulon. Il y avait un match arnière aussi que j'avais assisté, c'était contre l'USAP, je crois, à Béziers à l'année dernière. Et je sais que si jamais ça perdait.
C'était chaud pour Comino à ce moment-là. Hein.
Il y aurait eu des décisions assez importantes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils finissent en boulet de canon en ayant gagné 2-3 matchs à l'extérieur qui font la différence, que ce soit à Castres et à Bordeaux, et qui leur ont permis d'éviter un match de barrage. Donc, ça, c'est sûr que c'est indéniable. Ouais. Et à Lyon. Mais par contre, le Stade Toulousain, c'est vrai qu'avec un sacré nombre de points d'avance, mais ils sont obligés de le faire aussi parce qu'ils connaissent la période des doublons. Et ils anticipent, donc ils commencent en bombattant sur le début de la saison pour après se permettre d'avoir entre guillemets des trous d'air comme ils ont pu faire contre Clermont à domicile. Mais moi, j'ai jamais trop été inquiet par rapport au Stade Toulousain. Ils sont toujours là.
Ils sont toujours là, les Toulousains, et ils seront donc opposés à Montpellier la semaine prochaine. Un tout petit pronostic, tiens, Johan et Guillaume.
Moi, je suis pas bon pronostic.
Ouais, vas-y. Vas-y, lâche-toi.
Finale 26-24.
26-24. Ouais, pour qui?
Ah, Toulouse. Faut pas
déconner non plus. Guillaume.
Je vais rajouter 3 points pour Montpellier, peut-être 26, ça va, ça sera bien.
Bon, eh ben c'est parfait. On enregistre tout ça, on garde tout ça et on vous le ressortira très bientôt. Merci Guillaume, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. À très bientôt. Bonne finale la semaine prochaine. Et Johan reste avec moi. Julien reste également. Et dans un instant, on va accueillir justement le héros montpelliérain, hein, Johan Codulo, l'entraîneur de cette équipe de Montpellier. On va faire un petit détour avant cela par la Suisse avec la dernière étape du Tour de Suisse. Bon. Il n'y a pas beaucoup de suspense, Nico Paolorsi, concernant le nom du vainqueur de ce Tour de Suisse. Ce sera tout à l'heure Pogacar, mais il y a une étape, il y a une échappée. Et peut-être, pourquoi pas, un Français dans le coup. Salut Nico.
Ouais, salut Christophe, salut à tous. Tu le disais, dernière étape de ce Tour de Suisse hein, qui a été raccourci à 5 jours d'étape. Étape 100% montagne, ça fait que monter, que descendre. Mais il n'y a vraiment pas de plat. Et tu le disais, Tadej Pogacar qui écrase la concurrence. 4 minutes 22 d'avance au général sur Carapaz, son dauphin, avant le départ de cette dernière étape. Il est en train de marcher sur tout le monde. Il est tranquillement dans le peloton. On parlait de cette échappée, ils sont 11 en tête de cette étape à 86 km de l'arrivée, et parmi eux Lenny Martinez, le français. Il y a du beau monde hein, dans cette échappée, Christophe. Bauke Mollema, Nairo Quintana, Lenny Martinez, pour l'instant ils ont réussi à se détacher et à conserver 1 minute 40 d'avance. On est pas loin d'être à la mi-course. Deux cols hors catégorie avant la dernière ascension vers Villars sur Olon, c'est ce qui attend les coureurs. Ça va être très compliqué, surtout qu'il fait extrêmement chaud également sur les routes du Tour de Suisse. Donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue, mais pour l'instant Lenny Martinez est dans le coup avec ses 11 échappés.
Ah oui, avec des anciens, des vieux de la vieille, Mollema, Quintana, ça nous rappelle le Tour d'il y a quelques années quand même hein. Mais ils sont toujours là. Les papys font de la résistance. Merci Nico, à tout à l'heure. 15h29 sur RMC, on revient dans un instant. On continue d'évoquer le rugby, la qualification de Montpellier de Toulouse pour la finale du Top 14. Johan Codulo, l'entraîneur du MHR, sera avec nous dans quelques instants sur RMC.
RMC Intégral Sport.
L'Intégral Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour évoquer l'actualité sportive de ce week-end, marquée notamment par les demi-finales du Top 14 qui se sont déroulées vendredi et samedi soir, qui ont donc vu Toulouse écraser le Racing et Montpellier s'imposer face au Stade Français. Ces deux équipes qui s'affronteront donc la semaine prochaine, samedi prochain, à 21h05 au Stade de France, pour aller décrocher le bouclier. Deux équipes qui sont habituées au bouclier, enfin Montpellier un peu moins que Toulouse, mais Montpellier a décroché son premier bouclier en 2022. C'est la seule équipe, quand on regarde le palmarès, Johan, c'est la seule équipe. On voit Toulouse, 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 Toulouse et Montpellier qui est à Paris. Et Toulouse, 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 Toulouse derrière. c'est un peu ça quand on regarde le palmarès du Top 14. Hein.
Ouais, c'est un peu ça, mais en tout cas, c'est le dernier champion en titre derrière Toulouse. Donc, ouais. Ça prouve quand même leur continuité, même s'ils ont connu des moments difficiles. Revenir 4 ans après, c'est pas donné à toutes les équipes.
Ah non, c'est pas donné à tout le monde. On a bien vu que même les champions d'Europe connaissaient des difficultés en Top 14. Julien Landry sera donc de retour au Stade de France la semaine prochaine pour encourager cette équipe du MHR. Et nous sommes en ligne avec son coach, Johan Codulo, le sorcier de Montpellier, celui qui a transformé une équipe qui n'était pas au mieux en un finaliste du Top 14, en un vainqueur du Challenge Cup. Et ça, franchement, c'était pas gagné d'avance. Bonjour, Johan.
Bonjour.
Le sorcier de Montpellier, ça vous va, ça?
Pas du tout. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que les joueurs, ils sont pour beaucoup, et mon staff surtout. J'ai essayé de mettre de l'huile dans les rouages, mais de là à dire que je suis un sorcier, je pense que c'est un peu trop pour moi.
Johan le disait tout à l'heure, ou Julien, non, c'est Julien qui disait ça. Il y a quand même, dans cette équipe de Montpellier, un peu comme ça se fait à Toulouse, autour de vous, autour de votre personnage de manager, beaucoup d'entraîneurs qui sont issus de cette équipe de Montpellier. Et ça, on a vu que ça marchait avec Toulouse, ça a l'air de marcher également avec Montpellier. Connaître l'âme du club, connaître ses fonctionnements et tout ça, c'est important.
Oui, non, on n'a rien inventé. Et puis, il y avait un réel besoin de le faire parce qu'on avait du mal à trouver une identité. Et c'est vrai que l'exemple toulousain nous a quand même permis de pouvoir faire ça, quoi, tout simplement. Après, bien sûr que au-delà d'avoir l'ADN et connaître le club de Montpellier, il faut avoir des compétences. Et on a été aussi un petit peu chanceux de bien se trouver, quoi, tout simplement, et d'avoir les joueurs pour pouvoir réaliser tout ça, quoi.
Johan, t'as un mot à dire
Johan, félicitations, parce qu'on sait que les saisons de top 14, c'est un marathon, c'est long, c'est éprouvant. Et des fois, il y a plusieurs saisons dans une saison, et notamment les leviers que t'as eu pour. Tout le monde parle de vos 23 victoires ou 22 victoires.
22 sur 25.
Mais c'est surtout quels sont les leviers, parce qu'on en parlait avec Guillaume tout à l'heure. Vous avez connu un début de saison un peu compliqué.
Oui, oui, donc c'est sûr qu'on a connu un début de saison compliqué. On ne faisait pas les fiers en mois de novembre après notre défaite contre Clermont. Hein. Donc on a fait 9 matchs d'affilée et la première défaite à domicile contre Toulon et le 9e match contre Clermont, notre 2e défaite à domicile. Donc c'est sûr que le bloc était pas bon, il fallait se remettre en question. Donc la chance que j'ai eue, c'est que tout le monde s'est remis en question de mon staff et on a réussi à se retrousser les manches et à repartir de l'avant. Et c'est un élément quand même assez positif. C'est vrai que depuis le mois de décembre et ce premier match qu'on a réalisé contre Perpignan à Béziers, on est 23 victoires sur 26 et je trouve que c'est positif, même si il nous reste un match pour réaliser quelque chose d'exceptionnel au club qui a jamais été fait. Donc on est déterminé à ça, même si on sait que le morceau il est épais, quoi.
Il est costaud, le morceau, évidemment. Johan Codulo, manager du MHR, est avec nous. Julien, une question à poser à Johan. J'imagine que vous connaissez un petit peu, mais que tu as toujours des questions à lui poser.
Un tout petit peu. Depuis 2010, depuis 2009 même. Oui, j'étais talonneur, ouais, MHR. Non, Jo, votre premier vrai gros match de la saison cette année, c'est le 20 septembre. Vous aviez reçu un certain Stade Toulousain au Septéo Stadium. Un Stade Toulousain qui n'était pas venu en guinguette d'ailleurs ce jour-là. Et vous aviez remporté ce match-là 44-14. Est-ce que c'est un match sur lequel tu vas t'en servir pour la finale, ou c'est complètement différent ce qui vous attend la semaine prochaine?
Non, pour moi c'est complètement différent. Je vais pas faire la fine bouche et reprendre mes propos d'hier, mais pour battre le Stade Toulousain, il faut déjà nous être à 100%, ce qu'on a été au match aller, et il faut que Toulouse ne soit pas à 100%. C'est la réalité des choses, parce que ils gagnent souvent. Je crois, si mes stats sont bonnes depuis 2006, ils ont pas perdu une finale. Si mes souvenirs sont bons d'hier. Et voilà, donc
l'histoire finale gagnée par Toulouse.
Voilà, l'histoire elle est bien claire, et à nous d'être à 100%, on a le match retour où je trouve qu'on n'a pas été assez réaliste proche de leur ligne, et ce qui nous a pas permis de au moins récupérer un bonus défensif, parce que à ce moment-là l'équipe de Toulouse n'était pas aussi à 100%. Donc voilà, et on l'a vu quand ils sont à 100% contre le Racing, les dégâts que ça peut faire. Voilà, donc pour être bien clair là-dessus, nous on va être à 100% et on va tout faire pour l'être. Il nous a manqué des choses contre le Stade Français, on a manqué de réalisme, et pour permettre justement d'être plus tranquille à la 60e. Mais bon, ça a été une guerre, et obligatoirement on a manqué de maîtrise technique sur les fins d'action, parce que le Stade Français nous a mis à mal. Donc voilà, maintenant le Stade Toulousain, ça va être compliqué. On sait qu'ils savent tout faire, ils savent avancer en mêlée, ils savent faire des ballons portés, ils savent jouer au rugby. Donc on a un gros morceau, mais on va essayer d'être à 100% pour essayer de l'emporter, et on verra comment eux sont, voilà, tout simplement.
Les organismes hier, ils ont souffert avec la chaleur, avec les impacts. Comment as-tu retrouvé le groupe après ce match?
Non, ouais, je les ai trouvés fatigués mais déterminés. Comme je leur dis très souvent, et je leur dis après le match de la Challenge Cup, de la finale, pardon, c'est à eux de décider de savoir ce qu'ils veulent faire, tout simplement. S'ils ont envie de faire la bringue, ils font la bringue. Je suis pas leur père, je vais pas décider à leur place de ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont plus de 18 ans, ils sont majeurs, vaccinés. Mais moi, je crois au fait que si on veut gagner la semaine prochaine, il faut mettre tout en place dès hier soir pour le faire. Voilà. En 2011, il y a 15 ans, on est allé en finale, mais on savait pas pourquoi, peut-être. Fabien Galtier, notre entraîneur de l'époque, nous avait dit surtout les gars, vous sortez pas. Et comme on était des gens qui aimaient ça, on a fait la bringue. Et je pense qu'à la 60e,
en plus, t'étais le leader, hein. C'est à cause de toi.
Ouais, c'est à cause de moi. J'avoue. Et c'est vrai que on se rendait pas compte, et peut-être on était on n'était pas encore prêt à être champion. Et je pense que cette équipe est capable de l'être parce qu'elle l'a déjà été pour certains membres de mon effectif.
Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui a fait la différence. C'est-à-dire que vous, après votre finale gagnée à Bilbao, il y a eu quelques bières bues le soir même, mais vous êtes reconcentré tout de suite pour la fin du championnat. Ce que n'a pas fait, par exemple, l'UBB. Et l'UBB mal géré finalement cette fin de saison et s'est retrouvé non qualifié dans les six. C'est des moments importants. On peut pas faire la fête dans ces périodes. C'est pas la même coupe.
Il mais... faut pas enlever non plus la valeur du Challenge Cup, mais faire un doublé en Coupe d'Europe, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc on comprend les deux parties.
Oui, bien sûr. Et on va pas cracher sur l'UBB. Ils ont fait une saison magnifique en Champions Cup et cette finale notamment. Johan, donc finale face à Toulouse. Jusqu'à présent, vous étiez un peu les favoris. En finale de la Challenge, vous étiez favoris. En demi-finale, face au Stade Français, un petit peu, même si le statut de favori n'était pas énorme. Là, face à Toulouse, c'est clairement le Stade Toulousain et sa démonstration de vendredi soir. Vous avez vu le match, vous allez le voir. Est-ce que ça fait peur quand on voit la machine toulousaine se mettre en marche de telle manière?
Depuis quelques mois, ça me fait bien rire les commentaires que je vois sur le Stade Toulousain, comme quoi ils seront plus faciles à battre que les années précédentes. Ils sont toujours là, voilà, tout simplement. Donc, je suis pas surpris par la performance du Stade Toulousain, même si le Racing a pas été à son niveau, voilà, tout simplement. Mais bon, l'écart au score, il est quand même assez impressionnant et c'est sûr que ça fait peur. Hein, mais nous, on va être déterminés à essayer de créer un bras de fer, tout simplement, comme à chaque fois face à cette équipe. Mais moi, je crois en nous, même si je connais la force et le peu de faiblesse qu'a cette équipe de Toulouse.
En tout cas, Hugo Mola ne va pas pouvoir user de son levier de motivation habituel, c'est-à-dire regardez ce qu'on dit de vous, vous êtes plus aussi bon qu'avant.
Oui, il l'a fait sur la demi-finale.
Après. Il l'a fait sur la demi-finale, mais il va plus pouvoir le faire sur la finale là, parce que tout le monde est dithyrambique après la performance de Toulouse, Johan.
Oui, mais comme dit Johan, il y a aussi une équipe du Racing qui est arrivée très fatiguée. Ouais. Et s'ils collent pas au score, mentalement, ils avaient plus d'énergie, plus de fuel. Ça s'est senti au bout de la 20e minute. Des joueurs qui sont allés gagner à Clermont, des joueurs qui sont allés à Pau gagner, qui ont bataillé sur la dernière journée pour se qualifier contre le Stade Toulousain. Là, ils arrivent là, ce n'est pas des machines de guerre. Donc, effectivement, c'était compliqué. Donc, on en a pris un au Stade Toulousain. Mais on a pas eu l'équipe du Racing que tout le monde a vu durant la saison.
Et là, Johan, il va y avoir une journée de récupération en moins pour Montpellier. Vous avez fini tard hier soir. Vous êtes rentré, je crois, à 4h30 à la maison, alors que les Toulousains étaient au lit tranquilles et se préparaient déjà. Est-ce que ça compte, ça, justement, dans une semaine en plus où il va faire très chaud sur tout le pays? Comment essayer de bien récupérer et d'arriver plein badin pour cette finale?
Non, c'est sûr que ça va compter. On l'a vu, le Stade Français à la 50e a été un peu plus en difficulté que nous. Et nous a permis justement de dominer cette deuxième mi-temps. Voilà, après, ce qui m'embête un petit peu, même si je trouve important qu'on puisse contrôler les joueurs, mais à la fin du match, par un défaut d'effectif pour la LFLD, on est rentré à 4h du matin alors que le retour était prévu 2h voire 3h avant. Donc ouais. Ça c'est quelque chose de malheureux, même si je ne remets pas en question le travail que font ces gens-là, et c'est important pour notre sport d'avoir un sport propre, mais voilà, je trouve dommageable qu'on ne mette pas autant d'effectifs qu'ils ont pu le faire en championnat pour que mes joueurs puissent passer le plus rapidement possible. C'est pas une problématique de pas avoir réussi à faire pipi, c'est que il manquait d'effectifs entre le Stade Français et Montpellier. Ouais. Voilà, exactement. Et même des joueurs du Stade Français sont restés à quai et comme ils avaient un avion à prendre, les autres sont partis. Donc je trouve ça malheureux que ce top 14, qui est un des meilleurs championnats, avoir le meilleur championnat du monde, on est cette fébrilité et ces problématiques là d'organisation. Et c'est dommageable, même si
c'est la FLD,
l'Agence française de lutte antidopage.
Top 14, c'est juste eux qui n'avaient pas envie à ce moment-là de mettre les moyens. Alors,
bah, c'est une question de moyens financiers et
les moyens physiques.
Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bien dommage et on sait que les heures vraiment comptent, chaque heure compte avant une finale de Top 14 et donc vous êtes arrivé très tard à la maison. Julien, dernière question pour Johan.
Je sais. Il en a pas parlé d'ailleurs. Ça m'a étonné hier soir. Jo, je sais que tu penses au présent, à moyen terme, à long terme. Et je sais que tu es sûrement enchanté aussi parce que les Crabos du MHR ont été sacrés champions de France hier soir après avoir été champions à la Mercerie la saison dernière. Donc il y a une génération 2009 qui arrive, qui est plutôt intéressante. Mais je sais que tu travailles aussi sur la formation, que tu travailles sur réinstaller le club de Montpellier sur le long terme. Et j'imagine que dans le travail que vous faites aussi avec toute la formation, c'est une excellente nouvelle de voir les Crabos champions de France hier soir.
Ouais, c'est un oubli et je m'en veux. Mais c'est important. Tu as raison de le rappeler. C'est important ce titre que l'on a gagné l'année dernière en cadet à la Mercerie avec un des grands coachs, Louis Ficamol. Cette année, un autre grand coach qui a aussi joué au club, Anthony Floch. On a essayé de créer l'ADN du club en mettant des coachs qui ont joué au club, pas que en équipe professionnelle, même sur les équipes de jeunes. Et aujourd'hui, on a une génération 2009 qui est 4 étoiles. Après, sans aussi parler de la génération 2008 qui a joué aussi. Mais voilà, c'est fabuleux pour le club de voir ces jeunes émerger. J'espère qu'ils arriveront bientôt, qu'ils nous rejoindront bientôt, même si ils s'entraînent de temps en temps, dès qu'ils n'ont pas école avec nous, même s'ils n'ont pas encore 18 ans. Et c'est important que mes coachs puissent les voir évoluer pour les faire jouer quand ils auront 18 ans.
Très bien, la relève est là, la relève est assurée et du côté toulousain et du côté montpelliérain. Merci beaucoup Johan, on va vous laisser vous préparer et nous livrer une magnifique équipe et une belle prestation en finale la semaine prochaine face au Stade Toulousain. Merci Johan Codulo.
Merci beaucoup.
Et bonne préparation pour cette finale, donc Toulouse-Montpellier. Ce sera samedi prochain, 15h47. On revient dans un instant, Johan, on va s'intéresser à l'équipe de France, cette tournée ou ce championnat des
Nation Cup,
j'arrive pas, je l'ai pas encore. J'ai Champions Cup, j'ai Challenge Cup, j'ai pas Nation Cup, mais pourtant c'est ça, c'est le nom de la nouvelle compétition. Et l'équipe de France va se présenter avec une équipe pas mal quand même. Hein. On l'a vu face à l'Angleterre vendredi, elle s'est imposée. Il y a d'autres renforts qui sont arrivés. On en parle dans un instant dans l'Intégral Sport. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cécile.
15h50 sur RMC, on parle rugby avec Johan Huger, avec Julien Landry qui m'accompagne jusqu'à 16h. On a évoqué cette finale de Top 14 la semaine prochaine entre Toulouse et Montpellier, qui sera une véritable opposition de style entre deux clubs qui n'ont pas la même manière de jouer. Mais ça nous réserve quand même une finale intéressante, hein, comme ça sur le papier, Johan. On ne sait pas ce qui va se passer, mais comme ça, là, c'est...
Ouais, c'est la beauté du sport. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Une équipe de Montpellier qui est en pleine confiance depuis maintenant le mois de décembre, il me semble.
Décembre. Oui, exactement.
Et une équipe de Toulouse qui renaît de ses cendres un peu, on le disait moins bien. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils ont remis les compteurs à zéro à tout le monde et ils sont là. Donc logiquement, ils vont être favoris. Mais attention à l'effet de surprise de Montpellier.
Alors,
Christophe, je me permets juste un petit mot pour remercier le MHR
franchement,
de nous avoir mis à disposition les Minucci à 13h, de nous avoir mis Johan Codulo à disposition à 15h20. Alors Toulouse fonctionne différemment. Jérôme Casalbou nous a dit vendredi soir que ça ne servait à rien de faire des demandes, que tout serait fermé. Mais voilà, c'était aussi pour remercier Montpellier de nous avoir mis du monde à disposition
Toulouse, alors,
aujourd'hui pour
Toulouse.
Parler de ça.
Mais le principe aujourd'hui c'est de fermer.
Toulouse nous a dit qu'il n'y avait rien. Et Montpellier nous a permis aujourd'hui d'avoir du monde à l'antenne.
Et de temps en temps, certains clubs sont un peu moins frileux que d'autres. Je ne vois pas en quoi ça va empêcher la bonne préparation de la finale.
En fait, ce n'est pas que ça empêche. C'est dire que si on fait
ça. Si tu donnes à quelqu'un, tu es obligé de donner à tout le monde.
Voilà, c'est un peu ça le problème. Donc, il faut savoir le faire à un moment donné. C'est une semaine qui n'est pas évidente à préparer. C'est une semaine qui est difficile médiatiquement aussi parce que chaque mot est repris, chaque mot est interprété. Donc, maintenant je suis de l'autre côté et ouais. C'est vrai que j'aimerais avoir Hugo ou les joueurs aussi, mais je comprends le fait qu'on donne tout en même temps et au même jour.
Voilà, en tout cas, bravo et merci, tu as raison de le signaler, bravo et ma chère Julien qui a laissé et son capitaine et son coach s'exprimer aujourd'hui au lendemain de cette qualification pour la finale. Alors, parlons de cette Nation Cup. Donc,
parlons bien.
Ah oui, parce que là, il nous reste 3 minutes seulement. Donc, on a une liste qui est tombée tout à l'heure. Julien, tu vas nous rappeler un peu en gros de quoi il s'agit. Je crois que c'est une liste à 3 étages parce qu'il y aura encore d'autres joueurs qui sont susceptibles de venir après la finale, c'est ça hein.
C'est ça, il y avait une liste de 26 auxquelles on vient de rajouter 13 joueurs ce matin, avec notamment des noms qu'on attendait, Mathieu Jalibert, Damien Penaud, Maxime Lucu pour les plus connus. Il y aura aussi Hugo Radou qui revient, il va y avoir des nouvelles têtes, Moses Alo-Emile qu'on a vu hier soir, Théo Forner le catalan, et Gaëtan qui va revenir. Donc demain, ils seront 39 à Marcoussi pour préparer donc cette Nation Cup, avec une phrase très importante dans le communiqué de la fédération: la liste des joueurs retenus pour le championnat des nations sera communiquée à l'issue de cette période de préparation. Et on nous laisse entendre que à l'issue de cette période de préparation, si des joueurs ne répondent pas aux critères physiques exigés, ils pourraient ne pas partir en Australie. Et ce qui fait que sur les 3 joueurs normalement pour arriver à la liste de 42, samedi, Fabien Galthié va prendre 3 finalistes. Il pourrait donc finalement choisir 5, 6 s'il enlève quelques joueurs de la liste des 39. Bon, c'est un peu compliqué.
Ah, c'est aujourd'hui, la NASA, c'est la NASA joueurs. Là. Ouais. Franchement.
Voilà,
là,
aujourd'hui ils sont 39. Ils seront 42 en tout pour cette tournée estivale. Donc, ou 3 finalistes qui les rejoindront, mais qui ne joueront pas le premier test contre la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont 39. Ils auront rendez-vous demain à Marcoussi pour faire quelques tests et pour préparer donc ce grand départ pour cette première Nation Cup cet été.
Très bien. Alors, parmi les noms les plus savoureux, évidemment, de cette liste, ceux qui ont été appelés, rappelons donc le nom de Mathieu Jalibert, qui sera là.
On parle de Maxime Lucu, capitaine de tournée aussi.
Et Maxime Lucu,
Nation Cup.
Qui serait... capitaine de tournée,
capitaine.
Ouais,
c'est ça? Oui, capitaine de la tournée.
Exactement. Capitaine de tournée, quelle récompense.
Tatafu, qu'on va retrouver à droite. On sait qu'on cherche un droitier. Tevita Tatafu, le baïonnet.
Ah, ça y est.
Rejoint aussi cette. Ouais, il est dans cette liste-là.
Ah, ça peut être... Voilà. On a... C'est un peu lui, on ne sait jamais si on peut vraiment compter sur lui. Il a été appelé à plusieurs reprises.
Moses Alo-Emile a aussi été appelé, qu'on a vu hier soir, et également le castré Loïs Guerroy, oui, également un pilier. Donc voilà, il y a des nouvelles têtes qui vont arriver. Mais oui, on va évidemment se concentrer sur le poste de droitier. Mathieu Jalibert qui est là, Maxime Lucu, Damien Penaud qui fait son retour.
Mais voilà, noter, grand retour de Damien aussi,
ouais. Mais à noter l'absence de Gaël Ficou.
Ce que j'étais en train de dire, j'ai dit ça à Christophe tout à l'heure
Greg Aldrit aussi blessé, peut-être.
Et alors Greg Aldrit blessé comme Paul Boudéan, donc d'accord, les deux eux sont forfaits, alors que Aldrit aurait pu être appelé, alors que Gaël Ficou Ficou, là, c'est décision sportive. Donc, pas appelé sur cette tournée de novembre. On rappelle, 99 sélections pour Gaël Ficou.
Ce qui va décrocher la centième.
Et quand on voit la concurrence qu'il y a aujourd'hui au centre, entre les Palois, les Bordelais, ça paraît peut-être compliqué la suite de la carrière en bleu de Gaël Ficou.
Ouais, d'autant qu'il n'a pas été prépondérant dans le match du Racing face à Toulouse.
Bon, fatigué, c'est une histoire un peu collective, mais c'est dommage peut-être de ne pas l'amener.
Sur cette tournée quand même, avec l'expérience. C'était pas trop la ligne arrière, arrière jusqu'à encore peu, et aujourd'hui, il compte plus que pour du beurre. Louis Bialbiaré ne sera pas là, en revanche.
Il n'est pas là.
Il aurait pu être appelé. Et puis, après, a priori, parmi les finalistes, on dit que Antoine Dupont ne devrait pas partir en Nouvelle-Zélande.
Mais par contre, Romain Tamac. Fabien Galthié aimerait amener Romain Tamac sur cette tournée. Alors, à voir dans quel état est Romain Tamac. On sait qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. On sait que Fabien Galthié et son staff sont très vigilants sur les nombres de feuilles de match, les minutes disputées. Et on sait que Romain Tamac n'a pas pu disputer le tournoi des destinations et que peut-être qu'il a besoin aussi de retrouver l'équipe de France à 1 an de la Coupe du Monde. Donc, il se murmure que Romain Tamac, en tout cas, serait suivi par les Bleus pour repartir dans cette tournée estivale.
Ntamack et Jalibert ensemble en équipe de France. Voilà,
ça faisait longtemps.
Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus tous les deux. Très bien, on suivra évidemment ces matchs du 15 de France. Le premier, ce sera le 4 juillet prochain à Christchurch entre la Nouvelle-Zélande et la France. Le samedi d'après à Brisbane entre l'Australie et la France. Et le dernier match, ce sera le 18 juillet au Japon entre l'équipe nippone et l'équipe de France. Merci Julien.
Merci
Bon après-midi. Bonne préparation de finale, tu vas avoir du boulot cette semaine.
Bonne semaine.
Johan aussi va préparer cette finale comme il se doit.
On se retrouve samedi.
Et évidemment, samedi soir, 21h05, pour cette finale du top 14 entre Toulouse et Montpellier. Merci les garçons. Dans un instant, on change de sport. On va s'intéresser au cyclisme parce que là aussi, un grand événement est en approche. Le Tour de France, dans 15 jours, et le championnat de France, la semaine prochaine. On sera tout à l'heure avec Dorian Godon, le champion de France sortant. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
16h04, vous êtes sur RMC, vous avez bien raison, il fait bon ici dans ce studio, un peu de clim, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, attention, méfiez-vous, hydratez-vous comme le disait Inès dans le flash il y a quelques instants, parce que les chaleurs sont vraiment incroyables en ce moment. On va parler de vélo, parce que oui, même s'il y a cette canicule incroyable, eh bien des coureurs cyclistes sont en train d'affronter la montagne. Ça se passe en Suisse pour la dernière étape du Tour de Suisse entre Villars-sur-Ollon et Villars-sur-Ollon. Il fait chaud, il fait très beau et ça monte et ça descend à bloc. Nicolas Paolorsi, les conditions sont compliquées évidemment pour les coureurs de ce Tour de Suisse.
Oh oui, c'est dur. Tu parlais de la canicule, là, plus de 36 degrés sur les routes suisses. Et ils sont en train d'attaquer la troisième ascension du col de la Croix, col hors catégorie de cette dernière étape du Tour de Suisse. Les coureurs, il y a désormais plus de 2 minutes 05 d'avance pour l'échappée, composée désormais de 10 coureurs, avec Lenny Martinez qui est dedans. Andrew Auguste a pété de ce groupe-là. Et le peloton à 2 minutes 05, emmené par Tadej Pogacar. Après cette avant dernière ascension du col de la Croix, les coureurs vont redescendre tranquillement. Il n'y aura pas beaucoup de temps de repos. Et puis on terminera par une dernière ascension de ce col de la Croix pour arriver à Villars-sur-Ollon. C'est un circuit aujourd'hui, on le disait. Ils doivent attaquer ce col 4 fois. Allez, 3 fois et demi, on va dire, puisqu'ils complètent pas la dernière ascension. Mais voilà, c'est un programme de mutants, Christophe. Et ouais, il fait extrêmement chaud. Pour l'instant, c'est une course, du coup, t'imagines bien, assez prudente. Il n'y a pas de grandes attaques, de grandes envolées. On est assez prudent pour l'instant dans le peloton.
Voilà, on verra si tout à l'heure Tadej Pogacar a envie d'aller s'offrir une troisième victoire d'étape dans ce Tour de Suisse, lui qui est le leader incontesté, incontestable, et qui porte le maillot et qui va sans doute remporter ce Tour de Suisse tout à l'heure pour sa première participation. Jérôme Pinault est avec nous également pour parler de vélo. Salut mon Jérôme.
Salut mon Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Bon, cette chaleur là qui nous prend en plein mois de juin, ça risque de se reproduire au mois de juillet. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues justement par les organisateurs de Tours ou par l'UCI en fonction de la température? On sait que des choses sont annulées lors de matchs de foot ou de rugby, on prévoit des pauses fraîcheurs. En matière de cyclisme, c'est plus compliqué, mais si ça continue comme ça, si on a des températures de 45 degrés dans les Alpes ou les Pyrénées dans 15 jours, on craint quand même le pire. Est-ce que des choses ont été pensées à ce niveau-là, Jérôme?
Oui, bon, on s'adapte, tu sais Christophe, le Tour de France a toujours eu lieu en juillet et souvent en juillet il fait très chaud, et ça les coureurs le savent, donc ils se préparent déjà sous des hautes températures. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle ils vont en Espagne sur le TID, mais ça en est une. Et puis derrière, les protocoles grosse chaleur sont mis en place aussi. Maintenant, il y a un protocole conditions extrêmes. On espère qu'on n'arrivera pas à annuler ou diminuer des étapes du Tour de France. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud et que les températures même de la route soient devenues trop hautes pour que on annule une course ou on dévie une course ou on la raccourcisse. En revanche, il y a des choses qui s'adaptent, et notamment on dit souvent que le bar est ouvert au bout de 50 km, en tout cas le ravitaillement est ouvert au bout de 50 km sur l'ensemble de la saison en général et jusqu'à 20 km de l'arrivée. Lorsque les températures sont telles que celles d'aujourd'hui par exemple, on ouvre le ravitaillement dès le kilomètre zéro et on peut se ravitailler jusqu'à 2 km de l'arrivée en général. Donc les coureurs ont les leaders ont des équipiers pour cela. Il est vrai que lorsque c'est des grosses étapes de montagne et que s'il y a la bataille de loin, les leaders doivent penser à tout et notamment à ne pas oublier d'aller chercher à boire. On peut aussi disposer du personnel sur le bord de la route pour distribuer des bitons, de l'eau fraîche. On le sait maintenant, les coureurs utilisent beaucoup des glaçons dans des bas de femmes pour mettre sur la nuque notamment, pour rafraîchir l'ensemble du corps. Tout un tas de choses sont mises en place. On fait attention à la santé des coureurs, mais n'oublions pas qu'ils font, eux, du sport de très haut niveau et qu'ils sont prêts à ce genre d'effort. N'essayez pas de répéter ce genre d'effort en ce moment. J'ai encore croisé tout à l'heure, en revenant de la maison, des gens à vélo à cette heure-ci. C'est pas raisonnable.
En plein milieu de l'après-midi, là.
Ouais, là, il y a une heure. Complètement non, dingue, c'est fou, là. Ah non, c'est fou pas. Parce qu'il fait très chaud et que ces coureurs-là, je t'ai dit, Christophe, ils sont entraînés. Quand j'étais coureur, je m'entraînais, je faisais attention de ne pas aller en pleine chaleur, mais quand tu fais des sorties de 7-8 heures pour préparer le tour, bah, 7-8 heures, tu as beau partir à 6 heures du matin, évidemment, eh oui, moment, tu te retrouves en plein canard. Ouais, ouais. Quand vous avez le choix, messieurs, dames, de faire un peu de vélo, partez à 5 heures ou ne partez pas.
Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui le disais hier dans les grandes gueules du sport. Tadej Pogacar en Espagne s'est entraîné ces derniers jours avec des vêtements noirs pour justement essayer d'engranger et de résister un peu plus à la chaleur. Il est en train de se préparer pour les grosses chaleurs du mois de juin.
Tout à fait. On est en train tout simplement du côté de Tadej Pogacar et des leaders du Tour. Il n'y a pas que Tadej Pogacar qui fait ça, mais de s'astreindre à des conditions extrêmes. On a vu aussi des coureurs, pour répondre à leurs problématiques de chaleur, et notamment l'équipier Tadej Pogacar, tout simplement faire du home trainer dans des chambres chaudes. On parle de chambres froides, on parle de cryo. Lui, il s'est entraîné sur un home trainer, Tim Wellens, dans des salles type sauna pour pouvoir supporter la chaleur et surtout gérer la sudation. En fait, c'est surtout cela que les coureurs doivent gérer. Quand on dit on supporte pas la chaleur, c'est que le corps monte très vite en température, on sue beaucoup, on transpire beaucoup, on élimine énormément de l'oligo-éléments et de sel, et c'est ça que les spécialistes, tu sais, tous ces scientifiques du sport maintenant arrivent beaucoup mieux à mesurer. Et donc grâce à cela, on arrive à faire des choses en amont de la course, et notamment sursaler le corps, prendre un certain nombre de compléments alimentaires pour préparer le corps à l'effort en pleine chaleur. C'est ce qu'a fait Tadej Pogacar avec ses tenues noires, avec des tenues beaucoup plus chaudes que ce qu'il devrait utiliser en plein été, mais comme ça fait monter le corps en température, et on arrive à mesurer sa sudation, ses pertes, et savoir le soir après la course combien il faudra boire d'eau et combien de pastilles de sel il faudra mettre dans son bidon de récupération, etc. Aujourd'hui, c'est très très millimétré, chaque détail compte. C'est aussi pour ça qu'on rappelle chaque fois, et je le refais parce que on le cesse de répéter, ces coureurs-là sont suivis, sont des athlètes de très haut niveau. Et c'est pour cela qu'ils peuvent se permettre de faire des compétitions sous le soleil, ce qui n'est pas le cas du cyclisme lambda, et donc il faut faire très attention.
Nico, rassure-nous, il n'est pas en noir aujourd'hui, Poggi.
Non, il est bien en jaune. Il est bien en jaune.
Va falloir s'habituer au jaune.
Hein. Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Effectivement, il va falloir qu'il s'habitue.
Mais là, tu sens qu'il est en... Il est en train de gérer Jérôme là, hein, Tadej Pogacar. Je sais pas s'il va décider de sortir à un moment, mais là tu le sens, il est tranquillement avec ses équipiers qui maîtrisent la course. Il n'y a pas de danger pour lui. Et je suis pas sûr qu'il se mette en danger sur une étape comme ça, justement avec ses chaleurs extrêmes.
Je pense qu'il va tester le moteur en pleine montagne, ou au contraire, Nico, et je pense que je l'ai vu parler à l'oreillette tout à l'heure. Nils Polite est passé au relais. Ensuite, ce sera Tim Wellens. C'est très vite, il va mettre les 2-3 derniers relais grimpeurs. Je pense que Tadej Pogacar ira jusqu'au bout de son idée sur ce Tour de Suisse. Il a voulu se tester sur les parcours accidentés. Il s'est testé hier sur le chrono, même si en faisant deuxième du chrono, en gagnant le chrono, il n'a pas écrasé la concurrence malgré l'absence de grands spécialistes du chrono. Et aujourd'hui, c'est une des grosses étapes, c'est l'une des premières courses par étape à laquelle il participe avec des très longues ascensions, avec en plus cette forte chaleur. Il y a de fortes chances, les copains, que le Slovène veuille tester le moteur. Et quand le Slovène teste le moteur, vous savez comment ça se passe en général.
Oui, les moteurs des autres serrent. Hein, c'est ça le problème.
Ouais, en tout cas, ils sont à la rupture et lui, il en a encore sous la codasse.
Mais oui, parce que c'est sa dernière répétition avant le départ du Tour de France. On est à 15 jours du départ maintenant. Je ne sais pas s'il sera au départ des championnats de Slovénie, du championnat de Slovénie la semaine prochaine. Mais bon,
ce n'est pas prévu. Et en plus, avec la chute de sa compagne cette semaine sur le Tour de Suisse, sa grave chute, hein, qui est gravement blessé, notamment au visage, je pense qu'il va opérer un peu de calme, retour maison, tu sais, le dernier rappel d'altitude. En général, Tadej Pogacar, de mes connaissances et ce qu'il fait d'habitude, il va à Isola 2000, c'est-à-dire au-dessus de chez lui à Monaco, et comme ça, il peut être avec Urska. Donc, je pense qu'il va privilégier le temps à la maison auprès de sa femme en convalescence plutôt que d'aller faire une course en Slovénie.
Voilà, et puis il sera à Monaco au bord de la Méditerranée, et ensuite il rejoindra, il traversera une partie de la France et de l'Espagne pour se retrouver retrouvé à Barcelone au départ du Tour de France. Poggi qui a donc envoyé quelques messages supplémentaires depuis quelques jours. C'est vrai que Vingegaard en avait envoyé en remportant le Giro, que Sexas en a envoyé, même s'ils ont été un peu négatifs sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec cette chute. Mais là, Poggi quand même a tenu à montrer qu'il était le patron et que ceux qui doutaient peut-être de sa puissance en ont eu pour leur argent, hein. Notamment cette première étape du Tour de Suisse, alors que rien ne disposait, finalement prédisposait à une attaque de Pogacar. Le voilà qui s'élance à 70 km de l'arrivée et qu'on ne le revoit plus. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Oui, parce que là aussi on envoie des messages quelque part, Jérôme, en ce moment.
Bien sûr, tu sais, depuis 3 mois, Tadej est au repos, s'entraîne et il entend Vingegaard n'a jamais été aussi fort, Paul Sexas fait des exploits sportifs, il est en train de montrer à Pogacar qu'il sera là, Isaac Del Toro a gagné de fort belles manières de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Tadej Pogacar, avec une étape qui était plus dure sur le papier que ce qu'ils avaient imaginé dès la première étape, ben, il a tapé du poing sur la table. Il a dit, n'oubliez pas que le GOAT c'est moi, n'oubliez pas que le meilleur coureur du monde c'est moi, ok, vous envoyez des messages, je vais vous en mettre un aussi, un bon mail de 4 pages de 60 bandes avec 1 minute 30 d'avance sur le deuxième. Voilà qui je suis, rappelez-vous quand même que c'est pas parce que je cours pas que j'ai disparu. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des manières quand un grand champion s'entraîne pendant 3 mois. Il veut se tester, Christophe. Il se teste. Et comme je le disais un instant avec Nico, quand Pogacar se teste, eh ben, tu l'as dit, tout le monde serre le moteur et regarde le spectacle. C'est
ouais,
tout.
Ouais. Fais gaffe, hein, Nico, parce que ça va pas tarder. Là, il est bien placé.
Ouais, je suis sur le qui-vive, du coup. À 54 km de l'arrivée.
T'es à l'affût, Nico? T'as serré quel pied?
Ouais, je suis à l'affût. À 54 km, je me dis qu'il peut sortir à tout moment.
Voilà, il va falloir que tu essayes de le suivre, Nico. Ça va pas être facile, hein, je te le dis. On a tous essayé, on n'y est pas parvenu. Tadej Pogacar, qui va remporter ce Tour de Suisse. Il complète une nouvelle fois une petite ligne qui manque qui a son palmarès. Derrière, évidemment, il y aura le Tour de France. Est-ce qu'on peut imaginer que dès la première semaine du Tour de France, face à une adversité qui sera quand même tout autre, hein, au départ de la grande boucle, il est envie là aussi de taper du poing sur la table, notamment dans les premières étapes, puisqu'on va traverser les Pyrénées assez rapidement dans ce Tour de France, hein.
Il va falloir se méfier pour Tadej Pogacar de la concurrence, évidemment. Tu l'as dit, Christophe, sur le prochain Tour de France, là tout le monde sera là, hein. Et les Del Toro, et les Ayuso, et les Vingegaard très affûtés, et les Paul Sexas qui aura récupéré de sa chute, Lipovitz qui vient de remporter le Tour de Slovénie en gagnant 4 étapes sur 5 quand même, c'est pas rien.
Evenepoel
sera là, tout le monde sera là, tout le monde sera là. Donc il va falloir qu'il court avec grande intelligence, qu'il ne tombe pas dans un piège. D'abord, c'est de se dire, il faut que je distance très vite parce que les Pyrénées arrivent vite et que je vais d'abord taper du poing sur la table et mettre tout le monde à distance raisonnable, parce que là il pourrait se tromper, parce que j'ai l'impression que sur une troisième semaine, un coureur comme Vingegaard, Il monte en pression tout le temps. Et il va arriver après le Tour d'Italie sans avoir couru. Donc la première semaine, c'est une première semaine de mise en route. Et il ne faudrait pas que Tadej Pogacar tombe dans ce piège en disant qu'il faut le distancer le Danois maintenant. Alors attention, hein, Tadej Pogacar est le coureur le plus fort du monde. Et en plus, il est entouré de fins tacticiens. Donc je ne pense pas qu'il fasse cette erreur-là. Mais il est évident, Christophe, qu'en voyant la forme de Del Toro, en voyant la forme de Tadej Pogacar, en voyant la forme de tous ses coéquipiers encore sur ce Tour de Suisse, on imagine mal qu'il soit mis en difficulté, mais ses adversaires ont montré de belles choses aussi. Donc ce qu'on peut juste espérer, c'est qu'il y ait un peu de suspense et que finalement, ses potentiels adversaires n'ont pas s'unissent, mais fassent en sorte de lui laisser le poids de la course. Et s'il devait prendre le maillot jaune dès Barcelone ou contre un monde par équipe, ça pourrait être long pour l'équipe de Tadej Pogacar.
Oui, donc oui, parce qu'en plus on a vu que dans le chrono disputé hier sur le Tour de Suisse, c'était pas un chrono par équipe mais un chrono individuel. La plupart des équipiers de Poggi se sont très bien classés. Je crois qu'il y a 5 UAE dans les 14 premiers au classement de ce contre-la-montre. C'est dire s'ils seront performants lors du contre-la-montre par équipe, même si Visma a aussi montré de quel bois il se chauffait dans le Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques jours. Ça va être dès la première étape une bagarre peut-être pas pour aller chercher le maillot, mais en tous les cas pour montrer qu'on est les cadors quand même.
Ouais, ouais, il va y avoir cette bataille psychologique. On aura le temps d'en reparler d'ici le départ du Tour, mais l'UAE va avoir fort à faire. Il y a l'équipe Visma Lisebike qui marche très très fort avec un très bon effectif autour de Vingegaard. Il y a cette équipe Red Bull Bora Hansgrohe, hein, qui vient de gagner 5 étapes sur 5 en Slovénie avec Lipovitz, avec Roglic, avec Evenepoel. Il y a énormément de très bons coureurs dans cette équipe. Il y a l'équipe CMA CGM, Decathlon CMA CGM qui a un très bel effectif l'effectif autour de Paul Seixas, même si peut-être qu'on fera le choix de Olaf Koy sur le tour, en disant on va séparer les la pression, et Paul ne peut être que meilleur si Olaf Koy en claque une ou deux avant le départ avant la première semaine et les moments importants. Il y a l'équipe de
Ineos.
Ineos qui elle arbitre les choses en étant plutôt très offensive. Donc ça fait du monde au départ. Il y aura de très très belles équipes. On espère aussi que l'équipe de Lini Martinez, l'équipe Bahreïn, voilà, sera dans le coup pour le contre-la-montre par équipe. En tout cas, on a 3-4 équipes qui vont devoir taper du poing sur la table dès le départ. Ces équipes-là, elles vont avoir envie de briller, évidemment, entre l'UAE, entre Visma, avec Red Bull Bora et Decathlon CMA CGM. Ces équipes-là vont avoir envie de marquer le coup, de pas être distancé, de dire on a été plus fort que vous. C'est très important psychologiquement, plus que dans les temps finalement. Donc ça nous promet une première semaine du Tour de France de
passionnante,
voltige,
hein. Passionnante avec un plateau incroyable, parce que là c'est vrai que on voit Pogacar sur le Tour de Suisse, on a vu Seixas sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que Del Toro, on a vu Vingegaard sur le Giro, mais on les a jamais vus ensemble, et ça sera quasiment la première fois de la saison que tous les cadors, et ils seront tous là au départ du Tour de France, seront les uns face aux autres. C'est le signe que c'est vraiment la plus grande course au monde. C'est le seul moment où ces garçons là s'affrontent, donc on a tous une hâte terrible d'être au départ de ce Tour de France.
Bien sûr. Les grands rendez-vous de cette saison, que sont les classiques, et notamment si on parle de Tour de France, on va parler de Liège-Bastogne-Liège, on va parler des courses de préparation comme Paris-Nice, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Giro d'Italia, le Tour de Suisse. Ces courses-là ont toutes été remportées par deux coureurs et des cadors. Derrière, il y a la Flèche Wallonne, et bien c'est Paul Seixas. Le Tour du Pays Basque donne un enseignement, et bien c'est Paul Seixas. Donc, et le Tara, c'est le Del Toro. Donc on se dit que tous les garçons qui sont au départ du Tour, ils sont tous bien déjà. Ils ont tous gagné, ils sont en confiance. Il n'y a pas de problème, ils ont feu vert. Donc ça peut faire une très très belle course.
Alors le seul qui a connu un petit couac, c'est donc notre polo national, Paul Seixas, victime d'une chute dans le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il est reparti le lendemain, mais malheureusement pour lui, ses blessures aux mains l'ont empêché de continuer. Et puis surtout, on a voulu éviter que tout ça ne s'aggrave. Est-ce qu'on a des nouvelles de Paul? On nous dit qu'il a repris l'entraînement depuis quelques jours et qu'il va pouvoir bientôt faire un stage, donc ça devrait aller quand même pour Paul. Il sera bien au départ du Tour, rassure-nous Jérôme.
J'espère, j'essaye d'avoir des nouvelles, mais tu sais comme la communication autour de Paul est devenue opaque d'un seul coup après le Dauphiné, après le Tara. Et
alors il est en stage à Arc 1950 depuis jeudi soir.
Il est en stage, logiquement, ce qui était prévu, c'est 4 jours à la maison, puis stage, rappel d'altitude, ce qu'on appelle un rappel d'altitude. Puis ensuite, il va se diriger vers le départ du Tour avant de prendre le départ à Barcelone. Ils vont certainement y aller le mardi, je pense, avant le Tour de France. Tout va bien. Il a chuté, il est reparti le lendemain pour voir si mécaniquement ça tournait. Il n'y avait pas de douleur apparue au pédalage. Je pense que c'était le plus important.
Aux mains, mais il y avait blessé des douleurs aux mains. En revanche,
exactement. Et les brûlures, Christophe, et les points d'appui, que ce soit les mains, les jambes, les pieds, sont très importantes en vélo. Et en plus, on a une tendance, quand on a des brûlures, à compenser. C'est-à-dire qu'on va se mettre de travers sur le vélo. On va pas prendre la position idéale. On va pas pouvoir prendre sa position naturelle. Et là, ça va déclencher des douleurs satellites, et notamment le problème de tendinite, etc. Donc on a pris zéro risque, et c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, si c'est des bobos aux mains et si c'est des bobos aux genoux, j'en ai eu, on en a tous eu, on s'appelle pourtant pas Paul Seixas, mais au bout d'une semaine, 10 jours, c'est oublié, c'est refait, la peau est refaite, et on peut retravailler comme il faut. Donc pas de panique, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de Paul Seixas. Moi, ce qui me rassure, c'est ce qu'il a fait juste avant, c'est-à-dire l'étape à Crévolant où il a été Del Toro a été capable de suivre Seixas. Oui, peut-être. Il y a 6 mois, on disait est-ce que Seixas va pouvoir suivre Del Toro. Donc on en est là, c'est-à-dire il est déjà dans cette hiérarchie-là où il a accompagné, il a secoué le futur vainqueur de cette course sans jamais le lâcher. Mais ce que j'ai vu à la télé, c'est que Del Toro n'a pas non plus lâché Seixas. Donc Seixas était en très bonne forme.
Ouais, on est un peu resté sur notre fin parce qu'on aurait bien
voulu voir aimé qu'il aille au bout et que voilà, une grosse bataille et notamment dans cette étape du Grand Colombier où Del Toro a fait la différence et là où Paul Seixas a fait un énorme numéro en revenant de l'arrière en bouchant presque 3 minutes, mais il a plus de force dans la dernière montée. c'est comme ça. Ouais. On aura une belle bataille sur le tour.
Mercredi devrait être annoncée la composition de l'équipe Decathlon CMA-CGM pour le Tour de France. Alors là, il y a quelques incertitudes. On pensait jusqu'à présent que tout serait réservé pour Paul, à savoir une équipe entièrement à sa disposition. Mais là, tu le disais il y a quelques instants, Coy, qui est donc la recrue de l'intersaison, le sprinter, super sprinter, qui n'avait pas pu jusqu'à présent montrer de quoi il était capable parce qu'il était blessé, et donc de retour, et il a montré qu'il était en forme et qu'il espérait bien participer au Tour. Du coup, va se présenter un cas de conscience pour les dirigeants de Decathlon. Faut-il faire une place à Coy et donc à un de ses poissons pilotes, ou tout mettre sur Paul Sexton? Qu'est-ce que tu en penses et vers quoi se dirige-t-on à ton avis?
Des questions difficiles. Tu me dis, je me mets à la place du manager général de l'équipe Decathlon CMA-CGM. Je fais un choix et il est stratégique. J'en emmène pas un sprinter si j'ai pas quatre coureurs avec lui, parce qu'un sprinter comme Olaf Coy, il va pas pour participer au sprint. Il veut gagner des sprints. Et dans le Tour de France, quand on veut gagner des sprints, il faut au moins avoir deux voire trois équipiers autour du sprinter. Sinon, il n'arrivera pas forcément à gagner, et un sprinter qui ne gagne pas parce qu'il sent qu'il n'a pas le matos autour de lui peut vite être dans un état d'esprit où ça met un peu la zizanie autour de l'aiguille et dans l'équipe. Et on scinde l'équipe en deux. Et c'est ce qu'il faut surtout pas quand on a un coureur qui a annoncé vouloir faire de très bons résultats et le meilleur possible. Et le meilleur possible, ce serait le podium. C'est pas Jérôme Quinault qui le dit, c'est Paul Sexas qui a dit un très bon résultat, ce serait pourquoi pas un podium. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut viser une seule chose et pas deux lièvres à la fois. L'UAE, il n'y a pas de sprinter. De chez Bora Hansgrohe, il n'y a pas de sprinter. Et chez Visma, il n'y a pas de sprinter. Même Wout van Aert, quand il vient, il fait les sprints sur des étapes difficiles, mais dans les sprints massifs, il prend zéro risque parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Donc voilà, il y a des équipes comme Soudal qui vont tout miser pour le sprint. Il y a d'autres équipes qui vont avoir vraiment que pour le sprint. Eux, s'ils ont de l'ambition générale avec Paul Sexas, ils doivent mettre une équipe autour de lui. Mais a-t-on les coureurs pour entourer Paul Sexas et uniquement Paul Sexas? A-t-on en montagne prouvé que Paul Sexas ne serait pas isolé? Non, je ne crois pas. Mathieu Ricciatello est sur son Tour de Suisse en train d'essayer de rattraper le Tara qu'il a loupé parce qu'il était malade. On a quelques bons grimpeurs autour de lui, mais ça manque de matos. Donc est-ce que on va pas pouvoir intégrer un Olaf Coy dans un dispositif où sur le plat et dans les étapes de plat, il faudra protéger Paul et le mettre au service de l'équipe? C'est difficile de demander ça à un sprinter, et la décision sera prise dans les quelques jours. Mais avec un Olaf Coy très performant, ce qu'il n'est pas aujourd'hui,
c'est l'assurance de décrocher des
trophées. À l'assurance aussi. Christophe, il n'y aura pas beaucoup de sprints sur le Tour. Il n'y aura pas beaucoup de sprints sur le prochain Tour.
Il y a 4 ou 5 étapes pour les sprinters.
Et il y a plus fort qu'Olaf Coy en ce moment. Certes, il revient à bon niveau, mais si tu me demandes s'il faut prendre Olaf Coy et un équipier, ou alors un Mathieu Ricciatello évidemment qui y sera, mais un Thijs Benoot et puis un Stéphane Bisseger qui peut abriter, je fais le choix de Bisseger Benoot, et tant pis pour les sprints.
D'accord, le message est envoyé. J'espère que Dominique Sarrias nous écoute et que Sébastien Joly et Julien Jourdi aussi.
J'aimerais pas,
je sais pas s'ils nous écoutent, ils nous parlent pas, mais ils nous écoutent en tout cas.
Ouais, Julien nous écoute, je pense. Ouais. Julien nous écoute. C'est difficile à faire comme choix, mais je ne pense pas qu'on puisse faire le podium du Tour de France avec un coureur. D'accord. si on n'emmène pas un dispositif complètement autour de lui.
Très bien. Je me souviens d'une année où Marc Madiot se retrouvait un peu dans la même situation. Il avait Thibaut Pinot pour le général et il avait Arnaud Démare pour les sprints. Et ben à un moment il a été obligé de faire un choix. Ça n'a pas été facile à faire.
Mais le choix il est fait. Après on peut critiquer lorsque ça marche pas. Le plus dur c'est de faire le choix. Mmh. Et de pas faire de choix, c'est déjà renoncer à briller.
Ouais. Très bien, voilà donc pour ce qu'on sait de Paul Sexas, ce qu'on sait de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, on attend qu'il fasse quelque chose. Pour l'instant, il est toujours à l'abri derrière ses équipiers, Nico, dans la dernière étape du Tour de Suisse.
Ça roule fort, hein. Ça roule fort. On voit que les visages sont extrêmement marqués. Les maillots UAE sont transparents. Franchement, tellement ils sont en train d'appuyer là pour permettre probablement à Pogacar d'en mettre une petite. On est rentré dans les 50 derniers kilomètres de l'arrivée. On n'est pas loin de l'avant-dernière ascension là du sommet du col de la Croix où on sent que ça commence à être dur. Ils sont plus que 9 en tête avec toujours Lenny Martinez, lui qui n'a pas pété dans cette échappée de 9 coureurs qui a désormais 2 minutes 20 d'avance sur le peloton emmené par UAE et Tadej Pogacar.
Merci Nico. Dans un instant, Jérôme, on va accueillir le champion de France sortant, le champion de France en titre. Il a toujours son maillot bleu, blanc, rouge. Bon, il n'est pas en course aujourd'hui et il sera avec nous dans un instant. Dorian Godon, qui s'était imposé l'année dernière et qui va tenter de faire de même la semaine prochaine. Mais bon, ce ne sera pas la même chose parce qu'il n'aura pas une équipe entièrement à son service puisqu'il a changé de formation depuis. Il sera avec nous dans un instant. Et tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
16h30 sur RMC, on parle cyclisme avec Jérôme Pinault qui est avec moi cet après-midi, avec Nicolas Paolorsi qui lui suit la dernière étape du Tour de Suisse et c'est un peu compliqué pour un garçon qui nous régale au printemps, mais un peu moins durant l'été, c'est Mathieu Van Der Poel qui est en difficulté, Nicolas.
Ouais, distancé du peloton Mathieu Van Der Poel à l'approche de Villars-sur-Ollon. Bon, il a réalisé plutôt une bonne semaine hein, malgré tout, Van Der Poel.
Je ne sais pas si vous avez vu l'info, il s'est fait sanctionner de 500 francs suisses d'amende parce qu'il a osé se mettre torse nu hier en attendant le passage de Pogacar. L'UCI n'a vraiment rien d'autre à foutre que ça, que de mettre des amendes.
Ah, ridicule, hein.
C'est ridicule, d'un ridicule terrible.
No comment.
Jérôme.
Il a été en tout cas un petit peu distancé. Bah oui. Oui, mais on connaît ça. Alors moi, je suis beaucoup la Formule 1, Christophe. Là aussi, la Formule 1, ils sont spécialistes pour mettre des amendes. Tu sais, ils avaient sanctionné Max Verstappen parce qu'il avait balancé un petit fuck en conférence de presse à un moment.
J'ai vu Corentin Moutet.
C'est vrai que l'image hier de Mathieu Van Der Poel sur le hot seat, évidemment, torse nu, avachi les pieds sur la table, c'est pas l'idéal pour l'image
du cycliste. Il fait 40 degrés, il vient de faire
30 bornes au taquet sous une cocotte minute parce que tout ce qui est aéro n'est pas aéré, on le sait. Donc le gars, il a le droit de se détendre et surtout de retomber de faire retomber la température. Mais quand tu as créé des règlements alors que tu n'as jamais fait de vélo ou que tu as couru en 3 et 4, comment veux-tu comprendre ça, Christophe? Je ne peux pas comprendre.
C'est sûr. En tout cas, c'est ridicule et ça coûte quand même 500 francs suisses d'amende. Faut payer l'UCI et ses commissaires. Hey. Tiens, on est avec un garçon qui n'a pas encore tombé le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France et qui va peut-être essayer de le conserver là, dimanche prochain lors des championnats de France. Dorian Godon, le champion de France, est avec nous. Salut Dorian.
Ouais, bonjour à tous.
Bon, Dorian.
Salut Dorian.
On est avec Jérôme Pinault.
Salut.
Dorian, un petit mot sur cette histoire de Van Der Poel sanctionné de 500 balles pour cette mi-torse nu. Juste ton avis là-dessus?
Ouais, je pense que ça attire le public féminin, donc je pense que ça peut être une bonne chose, hein, pour guillemets. Non, mais après, non, on se rend pas forcément compte qu'il y a une caméra devant soi sur le site des fois, et on fait un peu sa vie, mais... Ouais, sur le coup, je pense qu'il n'a pas pensé, quoi, c'est tout.
Ouais, il n'a pas pensé et voilà, ils lui ont mis une petite amende. Dorian, donc, la semaine prochaine, les championnats de France, l'occasion pour nous de faire un petit bilan avec toi sur cette année passée en bleu, blanc, rouge. Et est-ce que tu as vécu une belle année quand on regarde le palmarès de cette saison 2025-2026, c'est plutôt très positif, non?
Oui, c'est ça, c'est vraiment très positif. J'espérais pas forcément autant. J'étais comme là présent toute l'année sur toutes les courses, que ce soit en fin de saison après avec le maillot et là depuis le début de saison les résultats vraiment étaient vraiment à la hauteur. Après c'est passé trop vite même.
Et ouais, ça donne envie d'y retourner, non, avec ce maillot bleu, blanc, rouge.
C'est ça, il est remis en jeu dimanche prochain, donc j'espère la forme est montée progressivement après le Dauphiné, j'espère le garder.
Bah oui, on l'espère, Jérôme, oui, c'est possible, même s'il n'aura pas la même force de frappe autour de lui que l'année dernière. Hein,
ouais, rappelons juste que, je ne sais pas Dorian, si Kevin a prévu d'aller au championnat, mais aux côtés de Dorian, il a deux équipiers, un qui s'appelle Kevin Vauclin et l'autre qui s'appelle Axel Laurence. Ça va, comme équipe, va. Même s'ils ne sont pas beaucoup.
Ils ne sont pas beaucoup, mais il y a de la qualité.
Ça tient la route. Ça tient la route. D'autant,
il y a Kevin qui fera le chrono, c'est vraiment son gros objectif du coup. Et puis après, suivi de la course en ligne avec Axel, on sera trois. Donc
oui, donc ça va.
Donc, on a quoi de faire.
C'est un circuit qui te correspond en plus très très bien. C'est un circuit qui va être difficile, qui va être usant. L'année dernière, ça, c'était déjà le cas du côté des Herbiers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question que j'avais à te poser. Dorian, tu as gagné 2 étapes à Paris-Nice, tu as gagné 2 étapes autour de Catalogne, tu as gagné 2 étapes autour de Romandie. Est-ce que tu vas aller sur le Tour pour gagner 2 étapes aussi?
Bon, on va essayer déjà de gagner une deuxième fois le maillot bleu, blanc, rouge. Et puis... Je prends étape par étape, mais c'est sûr que le Tour, déjà, l'équipe a beaucoup investi pour le chrono par équipe, donc à Barcelone. Donc l'objectif, c'est d'être avec le maillot jaune pour un de nous, et puis à Barcelone, et de gagner, et puis après, ça va bien lancer le Tour.
Ah ouais, l'objectif, c'est le maillot jaune. C'est clairement affiché, maillot jaune, pour
la meilleure équipe
à l'issue de la première étape. Ouais, enfin,
si on gagne le chrono par équipe...
Forcément, ouais.
Ça va se battre sur la ligne, Dorian. T'as une bonne pointe de vitesse, que là, va falloir sprinter jusqu'en haut de Montjuïc. Ça va se batailler pour faire premier de l'équipe ce jour-là.
Ouais, je pense qu'il y aura déjà un plan de bataille établi et on va le respecter pour. Voilà, je pense que.
Ah ouais? Tu crois qu'ils vont privilégier un Britannique plutôt qu'un Français sur le Tour de France? Non, quand même pas. C'est pas le genre de l'équipe, ça.
Ouais, je pense pas. Ils vont préférer la. Je pense que le genre de l'équipe, c'est privilégier la performance et voilà.
Bah ouais. Dorian, tu es allé le repérer ce circuit du championnat de France pour revenir au championnat de France. Tu es allé déjà repérer le parcours ou tu vas découvrir ça cette semaine en allant un peu plus tôt?
Ouais, je découvrirai ça dimanche, je pense, au premier tour.
À la cool,
chaque
quoi,
année,
à la
parce
cool.
Que souvent il y a les courses le samedi, il y a les courses féminines et on peut pas trop y aller. Donc non, j'ai dû regarder les parcours et tout, et un peu sur maintenant avec VeloViewer, Google Maps et tout, on arrive à voir déjà un peu à l'avance. Et puis je pense qu'il y a 15 tours, donc comme ça, 16. Je m'en lasserai pas.
On évoquait la semaine dernière dans notre podcast Peloton tous ces coureurs français qui ont décidé à un moment dans leur carrière de changer, de quitter le territoire français pour aller s'expatrier dans des équipes. La plupart du temps, ça s'est passé merveilleusement bien. J'imagine qu'il n'y a aucun regret de ta part d'avoir quitté la formation Decathlon la saison dernière pour rejoindre les Britanniques de Netcompany Ineos. Tu penses que... Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, finalement, de partir dans une équipe étrangère?
Déjà, ouais, je pense que j'ai besoin aussi de changement. Voilà, quand tu es dans une équipe depuis assez longtemps, il y a une certaine routine qui s'installe et j'aime pas forcément ça. Donc, c'était bien un nouveau challenge justement, de parler anglais. Voilà, tout était un peu nouveau. Et puis, moi, dès les premières courses, ils m'ont fait confiance à 100%. Un mec devant le peloton à rouler, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et au fil de ça, il y a eu les résultats qui sont venus et ainsi de suite. Donc voilà, on essaie de jouer aussi. Parce que l'éthique de l'équipe, c'est quand même beaucoup les classements généraux. Et un peu jouer avec ça aussi, parce que voilà, on ne peut pas sacrifier toute l'équipe pour moi, certaines fois. Mais voilà. Ils savent que dès que on roule pour moi, justement, il y a.
Ouais.
Je me loupe pas, quoi.
Ouais, tu leur rends bien l'appareil en remportant des courses, et ça a été le cas cette année. Un dernier mot avant de te quitter, Dorian. Tu as connu le petit Paul Sexas, qui était dans la même équipe que toi l'année dernière. Il a grandi soudainement. Quel regard tu portes sur lui, et est-ce que tu es surpris de le voir à si haut niveau, si rapidement, à 19 Mallet?
Ouais, mais sa progression est franchement plutôt linéaire, on va dire. C'est sûr que il s'entraîne déjà comme un grand leader, donc il arrive déjà à encaisser la charge d'entraînement, c'est déjà beau. Et après, non, il n'y a pas forcément de pression pour lui. À 19 ans, moi j'étais encore à l'école, donc c'est pas du tout la même génération, on va dire. Et chapeau à lui, ouais, d'encaisser tout ça, puis même ouais, toute la pression médiatique qui est autour de lui aussi, donc. Donc non, franchement, au Tour sera que du bonus et je pense qu'il va nous régaler au juillet. Ouais.
C'est pour ça qu'on compte sur toi pour être en jaune dès le premier jour. Comme ça, au moins, ça évitera qu'il y ait trop de pression sur Paul. D'autres Français vont briller sur Tour de France et on compte sur toi, Dorian.
Merci, j'y compte bien.
Merci beaucoup, Dorian. On te souhaite un bon championnat de France et cajole bien ton maillot bleu, blanc, rouge. Hein. Il est magnifique. C'est un bonheur d'avoir ce maillot sur les épaules. Merci à toi. Merci également à Jérôme qui va lui aussi aller cajoler son maillot de je sais pas quelle couleur. Tu vas t'entraîner là? Non, tu vas. Non, trop chaud.
Là, c'est repos et on va regarder tranquillement la fin du Tour de Suisse. On a vu que l'équipe CMA mettait en route. Je vais regarder ça. C'est pas impossible que je m'endorme devant la fin de la course.
C'est pas impossible.
Il réveille là ce soir. Ouais. C'est fête de la musique et Coupe du Monde. Donc ça va, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, effectivement. Nicolas Paolorsi lui reste avec nous. Il a pas fini parce qu'il reste. Il reste combien de kilomètres, Nico, dans cette dernière étape?
Il en reste 48.
Ah ouais. Et là, tu peux pas faire la sieste, quoi. Là, c'est râpé, là.
Non, mais Décathlon, la CMA CGM qui en effet a pris le relais et qui est en train d'appuyer fort. Nils Politte, lui, UAE s'est mis en retrait. Pogacar est toujours là et il bouge toujours pas sur son vélo, toujours aussi stoïque malgré les 36-37 degrés qui frappent le Tour de Suisse.
Merci Nico, à tout de suite. Il est 16h41 sur RMC. Dans un instant, on va parler d'escrime avec les championnats d'Europe qui se déroulent en France. On va parler de basket avec le quatrième match de la finale. Pour l'instant, eh bien, Paris mène 2-1, donc à la première occasion de décrocher le titre. Et puis à partir de 17h, le foot, direction les États-Unis pour évoquer toute l'actualité, notamment celle de l'équipe de France, les Bleus qui joueront demain face à l'Irak, leur deuxième match dans la compétition.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cécile.
16h44 sur RMC avant de partir dans quelques minutes aux États-Unis pour une nouvelle journée de Coupe du Monde de football et s'intéresser à l'équipe de France. On va prendre la direction moins lointaine d'Antony où se déroulent ce week-end les championnats d'Europe d'escrime avec de très beaux résultats pour toutes les armes françaises jusqu'à présent. Et c'est loin d'être fini puisque nous avons deux équipes qualifiées pour la finale qui aura lieu tout à l'heure. L'équipe française d'épée dames et l'équipe masculine de fleurer. On en parle avec Camille Borin, notre envoyée spéciale. Salut Camille, tout se passe bien?
Salut
pour
Christophe.
Nos équipes de France.
Ouais, bah c'est une belle journée. C'est le dernier jour de ces championnats d'Europe d'escrime ici à Antony dans les Hauts-de-Seine. T'as raison, c'est un peu moins loin que les États-Unis. On fait des économies de carburant ici. On aura d'abord la finale par équipe de l'épée dame, tu l'as dit, puisque nos épéistes qu'on connaît bien, hein, Oriane Malo-Breton, Marie-Florence Candassamy, Alexandra Louis-Marie et Diane Van Kersenbroek, eh bien, elles se sont qualifiées pour la finale en battant l'Ukraine en demi-finale 45-33. Je dis qu'on les connaît bien parce qu'elles sont championnes du monde en titre et vice-championnes olympiques, pardon, à Paris en 2024. Mais bon, aujourd'hui, c'est un titre européen qu'elles vont devoir aller chercher. Et ce sera contre la Hongrie qui a battu l'Italie en demi-finale. Et puis, on aura aussi, tu l'as dit Christophe, la finale du fleuret homme par équipe avec nos Français Raphaël Savin qui a été titré en individuel il y a quelques jours. Maxime Potti, Anna Sanan et Alexandre Sido, ils sont vice-champions d'Europe en titre, nos Français. Et ils viennent de se qualifier pour la finale en battant l'Allemagne 45-30. Et ils vont affronter l'Italie, encore une fois, parce que c'était déjà ça l'année dernière. L'Italie qui a battu les athlètes individuels neutres, hein, pour pas dire la Russie, 45-43. C'était une fin de match extrêmement serrée, donc ils ont une revanche à prendre sur les Italiens par rapport à leur défaite l'année dernière.
Je comprends mieux pourquoi j'ai pas vu Maxime Petit à la rédaction aujourd'hui. Il était en compétition de temps en temps.
Il est un peu occupé.
Il est occupé. À tes côtés, l'entraîneur de l'équipe de France, justement, de fleuret masculin, Aymeric Clos, est avec nous. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Bon, Aymeric, vous avez comme ça des athlètes qui font un peu de radio de temps en temps. C'est pas vous les autorisez à faire autre chose que de s'entraîner à l'épée ou au fleuret au quotidien?
Je les encourage, je leur dis de le faire parce que ça leur fait du bien de voir autre chose que de l'escrime. Donc je trouve ça très bien que Maxime puisse faire ce qu'il aime. Donc ça ne pose pas de problème et au contraire, il faut qu'il continue à le faire et même plus s'il peut.
Eh ben voilà le message est lancé donc par Aymeric, entraîneur de cette équipe que vous aviez menée à la médaille de bronze, me semble-t-il, à Paris en 2024. Et il y a eu encore d'autres plus beaux métals. C'était à Tokyo, je crois, la médaille d'or. C'est une tradition française, le fleuret par équipe, même si en individuel ça a été plus compliqué. Mais là, vous avez peut-être trouvé la nouvelle pépite de l'escrime française, Aymeric.
Alors oui, Raphaël, ça fait longtemps que Raphaël est dans le circuit, même s'il est tout jeune. Il avait un petit problème de mental qu'il corrige depuis 2-3 ans. Sa non-sélection aux Jeux de Paris lui avait fait beaucoup de mal. Voilà. Il a un gros potentiel, mais c'est pas le seul. On a aussi Anna Sanan qui l'année dernière était vice-champion d'Europe. Donc aujourd'hui, l'équipe est jeune avec Maxime Potier qui fait office d'ancien. Voilà, aujourd'hui, il faut trouver l'alchimie. Voilà, on a une grosse finale sur l'Italie. Voilà, il faut le dire, on n'est pas des favoris. Voilà, on n'est pas favoris cette finale parce que cette année, on les a rencontrés deux fois, on a perdu. En tout cas, comme je leur ai dit, il faut qu'on fasse tout pour essayer de corriger les choses et d'essayer de progresser encore pour essayer de les battre sur Los Angeles 2028.
Et oui, parce qu'on est déjà en train de penser à Los Angeles 2028. Emeric, comment vont se dérouler les qualifs justement pour les Jeux Olympiques? Ça sera décidé au dernier moment, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des points à obtenir avant dans certaines compétitions? Comment ça se passe justement la sélection pour les Jeux Olympiques dans l'escrime française?
Pour l'escrime française, pour l'escrime mondiale, en fait, à partir du 1er mai 2027, toutes les Coupes du Monde par équipe, les championnats d'Europe et championnats du monde vont compter. Et les quatre premières équipes seront sélectionnées pour les Jeux Olympiques, plus la meilleure par continent, ce qui nous fera 8 équipes qualifiées. Et à partir du moment où l'équipe de France est qualifiée, on a le droit de choisir 3 athlètes qui représenteront la France.
D'accord. Ça, c'est vous qui les choisissez, c'est pas en fonction de leurs résultats. C'est un choix de la DTN et des entraîneurs nationaux.
Non, on tient compte après des résultats individuels. On met en place un classement par rapport à des compétitions qu'on choisit. Et à la fin de ce classement, le premier est qualifié pour les Jeux Olympiques. Et les autres sont choisis par une commission dont je fais partie. D'accord. Avec la DTN. Et on choisit les deux autres plus le remplaçant pour le par équipe.
Bon, vous avez une belle expérience là-dedans. Hein. Quatre campagnes olympiques, je crois. Combien de médailles sur les quatre campagnes olympiques, Emeric?
4. J'en ai fait 3 avec le Floréum et 1 avec le Florédam à Tokyo.
Bon, ben c'est pas mal tout ça. Donc maintenant, il faut viser encore plus fort. Est-ce que ce petit Savin peut espérer justement une médaille d'or? Il est champion d'Europe, mais bon, on sait que l'escrime mondiale, c'est surtout l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe. Est-ce qu'il a une bonne. Un bon feeling pour devenir un jour un champion olympique ou un champion du monde?
Ben aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut, hein. Je vous dis, à part le mental qu'il doit travailler, il a commencé à travailler. Escrimon parlant, il est très très fort et je suis très content qu'il ait pu confirmer au championnat d'Europe. Maintenant, il va falloir qu'il passe le step des championnats du monde dans un mois. Voilà, pour qu'il prouve qu'encore il a fait des progrès. Mais en tout cas, il a tout pour gagner un titre olympique un jour.
Eh ben, on va souhaiter à votre équipe de France déjà d'aller décrocher le titre de champion d'Europe. Ce sera donc tout à l'heure pour la finale de Fleuret. Merci beaucoup, Emeric. Et on va vous dire plein de choses pour cette finale qui débutera dans combien de temps?
20h40.
À 20h40, voilà. C'est ce soir, c'est ça. Eh ben, Camille nous fera vivre cette finale. Merci, Emeric. Merci, Camille.
Avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Christophe.
Tout à l'heure, donc, pour les championnats d'Europe d'escrime qui se déroulent à Antony, en banlieue parisienne. 16h50, nous allons quitter la banlieue parisienne pour aller sur le rocher de Monaco, retrouver notre ami Clément Brossard, qui lui va nous parler de basket, avec la finale qui se poursuit. Clément, on a assisté à un drôle de match, c'était vendredi soir, avec la victoire de Paris sur le parquet monégasque, et Paris... qui a l'occasion de décrocher le titre de champion de France dès ce soir. Il suffit d'une victoire en quelque sorte.
Exactement, salut Christophe, salut à tous, bienvenue sur le Rocher, Stade Gaston Médecin pour ce match 4 de la finale avec les Parisiens qui mènent de deux manches à une, hein, désormais cette victoire, on peut dire surprise puisqu'à domicile les Monégasques sont toujours plus ou moins favoris, une victoire 88-77 qui les met dans une très bonne position pour ce soir, un succès et ce serait le back-to-back, petit clin d'œil aux Parisiens du football, le back-to-back pour les Parisiens champions l'année dernière, ce serait le premier doublé de championnat de leur histoire, mais il y aura fort à faire quand même parce que cette équipe monégasque, elle sera revancharde après la défaite de vendredi. Elle voudra à tout prix essayer d'emmener ces Parisiens en match 5 qui aura lieu à Paris, ce sera mardi prochain. Ils ont eu aussi la bonne nouvelle de voir Mathieu Strazel et Alpha Diallo qui a été exclu vendredi, présent dans les rangs monégasques aujourd'hui puisque la suspension n'a pas été immédiate. Alors on verra s'ils peuvent disputer un match 5 si jamais il y a match 5, mais pour l'instant ils seront présents et ils seront eux très revanchard aussi parce que Mathieu Strasel le disait, il n'a pas dormi de la nuit après la dernière défaite face à ces Parisiens là. Ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. L'entraîneur Sergi Gladys aussi qui lui veut voir un nouveau visage, le vrai visage de Monaco et être peut-être un peu moins égoïste. Je reprends ces termes pour essayer de faire corps et de venir à bout de cette équipe parisienne qui sera évidemment l'idée par l'intraitable Nadir Hiffi qui est à l'échauffement juste devant nous. Donc ça promet du beau spectacle dans ce match 4 de la finale de Betclic Elite.
Est-ce que les soucis économiques et financiers de Monaco peuvent avoir une influence sur le rendu de l'équipe, le rendu sportif, Clément?
Oui, parce que cette équipe monégasque, elle sera... à part grosse surprise, mais franchement, je vois pas comment ça pourrait être le cas, totalement modifié la saison prochaine. Donc, on parle beaucoup d'aventures humaines dans le sport. Là, c'est l'occasion pour une bande de potes aussi d'aller chercher un trophée. Alors, ils le soulèveront pas, quoi qu'il arrive, dans cette salle Gaston Médecin, qui n'a jamais vu Monaco soulever un trophée d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, ça a été à l'extérieur. Mais pour cette équipe de copains, c'est l'occasion de d'un peu terminer sur une bonne note aussi devant ce public, parce que l'année prochaine les finances seront revues à la baisse. Il y a le bruit qui court comme quoi le budget s'est très restreint avec l'idée de poursuivre en Eurocup. Aujourd'hui Monaco fait figure de presque de top 5 depuis des années en Euroleague, et la saison prochaine ce sera le départ de Mike James qui est déjà acté, Mathieu Strasel qui est une forte valeur marchande qui s'en ira certainement, bref toutes les stars, on pense à Elie Okobo aussi, pourraient s'en aller du Rocher pour totalement reconstruire un projet, parce que les finances sont dans le rouge vif et que c'est le gouvernement monégasque qui tient pour l'instant la baraque, hein, et il va falloir le rembourser ce gouvernement monégasque, et ils ont jusqu'à début juillet pour le faire. Donc voilà, c'est surtout sur l'aventure humaine, et parce que ces monégasques sont conscients que le groupe l'année prochaine sera totalement changé et qu'il n'y aura plus de stars, ou beaucoup moins en tout cas de stars sous le maillot de la Roca Team la saison prochaine.
C'est terrible quand même, hein, parce que cette équipe s'est construite et a gravi des échelons pour atteindre le plus haut niveau, et puis là plus de sous, plus rien, et tout se délite. C'est dur, hein, parce que franchement Monaco depuis 2-3 saisons quand même c'était quelque chose de très fort, hein.
Exactement, depuis le début des années 2020, et tu n'es pas sans savoir, Christophe, que j'avais vécu notamment à titre personnel les très belles années du début de la Roca Team, comme elle l'est aujourd'hui, avec les Mathias Lessor et tous ses partenaires, le début de Mike James aussi, qui avait fait rêver les supporters monégasques avec le titre en Eurocoupe pour ensuite découvrir l'Euroleague, et puis ne pas faire office de dernier de la classe en Euroleague, loin de là, hein, de connaître le Final Four aussi. Donc les supporters monégasques, après ô combien d'années d'absence, parce qu'il faut souligner aussi que pendant 15 ans la Roca Team a été absente de l'élite du basket français. Sur les 4 dernières années, les supporters ont vécu des années mémorables, magnifiques, et ça va être un petit retour à la réalité certainement l'année prochaine, même si on va pas dresser un tableau tout noir non plus. Il y aura une équipe qui sera compétitive en Coupe d'Europe, mais pas la grande Coupe d'Europe, l'Eurocup, mais c'est sûr que c'est un gros coup de frein pour cette équipe monégasque qui, on le rappelle, hein, tout part du fait que le propriétaire soit d'origine russe, avec des avoirs gelés aussi dans la principauté, et du coup ça ajoute un trou à la caisse qui est trop difficile à combler pour les monégasques, qui sont obligés de couper les robinets.
Ok, bon, on va voir si malgré le robinet fermé, Monaco est capable d'arracher un match 5 qui se déroulerait donc à Paris. Ce serait quand le match 5, Clément?
Ce sera mardi soir, 21h.
Très bien, le coup d'envoi de cette finale, cette manche 4, ce sera tout à l'heure à 18h. À vivre avec toi tout à l'heure, Clément.
À tout à l'heure.
16h56 sur RMC. Avant de partir aux États-Unis, de parler de foot, on va repartir en Suisse pour voir où sont Nicolas Paolorsi et Pogacar et les autres. Nous sommes à combien? 31 km de l'arrivée de cette étape, c'est ça, Nico?
Ouais, c'est ça. On est dans une longue descente qui doit emmener les coureurs vers la dernière montée, vers Villars-sur-Ollon. Ils sont 8 en tête, avec Lenny Martinez qui a essayé de mettre une petite attaque là pour passer en tête du dernier sommet du col de la Croix. Il est bien, notre Français Lenny Martinez là, parmi ses 7 compagnons d'échappée, Bauke Mollema, Nairo Quintana. Voilà, il y a du beau monde avec lui, des coureurs d'expérience, et derrière le peloton qui revient, 1 minute 25 d'avance pour les 8 hommes de tête. Devant le peloton emmené par Pogacar qui est toujours là, ça va pas suffire, hein. 1:25 sur Pogacar, Christophe, pour aller en haut à Villars sur Ollon, ça semble un peu court.
S'il met en route, ça va être compliqué, ouais.
Ouais, mais Lenny Martinez dans un grand jour, pourquoi pas. On pourrait peut-être assister à une victoire d'étape française sur cette dernière étape du Tour de Suisse. Il reste 30, une grosse trentaine de kilomètres.
Merci Nico, on te retrouve tout à l'heure justement pour le final de cette étape. Il est 16h57, dans un instant le foot. Jean-Pierre Papin va me rejoindre. Ah oui, un ballon d'or quand même, c'est pas rien, pour évoquer à la fois l'équipe de France qui jouera demain soir face à l'Irak, et pour évoquer également l'Espagne qui a un match important ce soir à partir de 18h. L'Espagne tenue en échec lors de la première rencontre, mais qui enregistre le retour de Lamine Yamal, qui sera titularisé tout à l'heure. On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC Intégral Sport.